peux pas ignorer, je pense que plus fort que les appareils bureaucratiques, je suppose que personne ne se permettrait d'ignorer cela. Donc il y a de l'histoire. D'autre part, certains d'entre vous ont appris en classe qu'il y avait des lois de l'arithmétique, ce qui est d'ailleurs discutable. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des lois de la physique, telles que la chute des corps, telles que celles qui régissent le mouvement des planètes, et bien d'autres choses encore. La question se pose de savoir quelle est la nature respective de ces diverses lois et comment est-ce qu'on peut raisonner les unes par rapport aux autres. Il faut que je récupère mon...
Vous devriez bien profiter de m'écouter ce soir parce que je vais sûrement crever d'ici peu, alors ça va être une dernière occasion. Bien. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de l'histoire de la nature ? Eh bien, c'est qu'effectivement, lorsque Marx emploie cette expression, il veut dire autre chose que ce que je vais dire. En effet, lorsque Marx emploie cette expression, et il, à plusieurs reprises, il compare sa méthode scientifique et il dit qu'elle est de la même, du même caractère que la méthode employée pour étudier la nature et son histoire, il veut dire surtout, à ce moment-là, surtout dans ses œuvres de jeunesse, même encore dans l'idéologie allemande, l'histoire du milieu naturel modifiée par l'intervention de l'homme. Autrement dit, il est évident que, au cours du développement de la science et de la technique, ou plus généralement de la civilisation, l'humanité modifie le milieu et qu'elle le remodèle à son usage, qu'elle en fait une nature humanisée. À cause de la campagne engagée, à juste titre d'ailleurs, contre la destruction du milieu naturel par le capitalisme dans sa période de décomposition et de putréfaction, on voit cette action de l'homme sur la nature d'une manière uniquement négative, comme une simple activité prédatrice, comme une simple destruction. En réalité, ça a été aussi et beaucoup plus pendant les périodes de progrès, de développement de la civilisation, une activité constructrice tendant à remodeler la face de la nature pour en faire, si vous voulez, un jardin à l'usage de l'homme. La face de la terre pour en faire un jardin à l'usage de l'homme. Mais, je laisse de côté la question de la destruction de l'environnement, ne me posez pas de questions écrites là-dessus, parce que j'en ai une dizaine pour laquelle, de la première session pour laquelle la réponse est déjà prête, mais j'ai pas eu le temps de terminer les autres réponses que je voulais mettre dans le bulletin de cette fois-ci. Alors, comme il est dit, vous attendrez encore une fois, vu les capacités extrêmement restreintes de la direction de l'école, je n'y peux rien. Je suis par contre tout à fait prêt à examiner les propositions de camarades qui voudraient collaborer avec moi pour répondre aux questions écrites que vous poserez. Sur cette question de l'environnement, toutefois, attendez, je vous prie, d'avoir lu les réponses aux premières questions qu'on me pose pour éventuellement revenir dessus ensuite, mais ne pas poser sans savoir exactement la même question. Je dirais simplement ceci, les rapports de l'homme avec la nature ne doivent pas être vus sous l'angle de ce qu'ils sont aujourd'hui à l'époque de la décomposition du capitalisme et de sa chute dans la barbarie. Aujourd'hui, la destruction du milieu naturel, la tendance du capitalisme à détruire le milieu naturel de l'homme, dans une certaine mesure au moins de façon irrémédiable, à mon avis on exagère beaucoup actuellement pour certaines raisons, mais j'ai pas le temps de m'expliquer là-dessus. De toute façon, cette tendance est un des aspects de la tendance destructrice du capitalisme à l'agonie à l'heure actuelle, de la tendance à la transformation des forces productives créées par l'humanité pour satisfaire ses besoins en forces destructives. Le fondement même de toutes les forces, de toute la capacité de production de l'homme, de sa capacité de satisfaire ses besoins, c'est le milieu naturel, c'est-à-dire que la destruction du milieu naturel doit être considérée comme un des aspects les plus centraux de la tendance à la création de forces destructrices et à la destruction des forces productives, ce qui ne sont que deux manières de dire la même chose. Toutefois, avec l'univers tel qu'il est connu aujourd'hui, quand on parle de l'histoire de la nature, on peut comprendre quelque chose d'incomparablement plus vaste, c'est-à-dire l'histoire de la nature soit avant l'homme, soit indépendamment de l'homme, puisque l'univers dans son ensemble est aujourd'hui encore assez peu affecté par les activités créatrices ou destructrices de l'humanité qui sont maintenant à l'échelle de cette petite planète, mais certainement pas à l'échelle de l'univers entier ou même d'une galaxie par exemple. Et la science moderne a permis de donner un tableau qui diffère singulièrement de celui qu'il pouvait être, de celui qu'on pouvait se faire de l'univers au XIXe siècle, jusque vers la fin du XIXe siècle. Jusque vers la fin du XIXe siècle, le tableau de l'univers qu'avait dans la tête, même s'il ne s'exprimait qu'avec prudence à ce sujet, la plupart des savants, la plupart des physiciens et les quelques très rares philosophes qui parlaient de l'univers après avoir étudié les résultats de la science et non pas en les ignorant superbement, ce qui évidemment le dernier grand philosophe a considéré que la philosophie n'était pas une spéculation gratuite mais qu'elle devait au contraire intégrer les résultats de la science de la nature, c'était Kant qui était en même temps l'auteur de différentes théories métaphysiques et en même temps l'auteur d'une des premières théories sur l'origine du système solaire, théorie scientifique qui pour l'époque représentait tout ce qu'on pouvait faire et qui même aujourd'hui d'ailleurs n'est pas tellement loin de certaines des conceptions, de la conception généralement admise de l'origine du système solaire. Ensuite on a vu de ce point de vue les pires activités folkloriques. C'est d'abord Hegel qui s'est illustré malencontreusement dans cette circonstance en déclarant solennellement qu'on ne comprenait pas bien pourquoi les astronomes passaient leur temps à chercher des planètes supplémentaires alors qu'il y avait longtemps que la philosophie avait démontré qu'il n'y en avait 7 et qu'il ne pouvait y en avoir que 7. À cette époque, Neptune n'était pas connue, qui est la 8e grande planète, mais l'année suivante, on découvrait une petite planète, la première, Cérès. Et depuis, on a découvert quelques milliers qui ne tiennent pas trop compte de cet aspect, disons, aberrant du système, de l'esprit de système de Hegel. Ceux des philosophes, donc, qui étaient au courant des résultats de la science et les savants eux-mêmes, se faisaient le tableau d'un univers, d'abord simplement infini dans tous les sens, sans aucune complication, et ensuite dans laquelle l'évolution se faisait en cycle. On admettait plus ou moins, bien que ça n'était pas conforme à toutes les lois connues à cette époque, mais de toute façon, il n'y avait pas non plus de réfutation possible, l'expérience ne montrait ni cela ni le contraire, on admettait plus ou moins qu'à une certaine époque lointaine dans le passé, la matière était répandue à l'état de poussière dans l'espace, puis qu'elle s'était agglomérée en planètes et en étoiles et en systèmes, puis qu'à travers des milliards d'années et d'extrêmement longs cycles d'évolution, les étoiles se refroidiraient, la matière se disperserait de nouveau, on ne savait pas d'ailleurs trop comment, mais d'une façon ou de l'autre, et tout recommencerait selon un cycle qui était au fond conforme à des idées métaphysiques très anciennes d'un éternel retour, plus ou moins. Or, aujourd'hui, les résultats ne cessent de s'accumuler qui montrent que l'univers, c'est certainement très compliqué, mais que c'est sûrement pas ça. Que l'univers connaît une série d'évolutions irréversibles, c'est-à-dire des évolutions telles qu'il ne repassera pas ensuite par le même stade exactement selon toute probabilité. Toutes sortes de phénomènes. Cet univers astronomique qui, à notre échelle de temps, nous paraît d'une stabilité imperturbable, si on change d'échelle de temps, si on prend comme échelle l'échelle qui est normale pour l'histoire de l'univers, c'est-à-dire par exemple 100 millions d'années ou 1 milliard d'années, nous ne remontons pas au-delà de 15 milliards d'années, date à laquelle, à quelque chose près, toute la matière de l'univers était concentrée dans un volume extrêmement restreint, où régnait naturellement une température extrêmement élevée et une pression extrêmement élevée. Cette espèce de boule primitive a fait explosion, et ce qui est remarquable, c'est que même à notre époque, où l'explosion a réparti la matière sur un volume immense, Même à notre époque, toutes sortes de phénomènes explosifs se déroulent certainement, et on ne cesse pas de découvrir au cours des dernières années de nouveaux phénomènes d'évolution irréversible. Par exemple, notre galaxie que nous croyions bien paisible, et dans laquelle les astronautes de la science-fiction se promenaient paisiblement depuis déjà quelques dizaines d'années, sans rien rencontrer que des monstres malheureusement singulièrement terrestres et faisant de la preuve du peu d'imagination des auteurs, notre brave galaxie, il semble de plus en plus que son noyau central soit l'objet de phénomènes explosifs de temps à autre. Le dernier s'étant produit il y a seulement peut-être 30 ou 40 000 ans, ce qui est extraordinairement peu, si vous pensez que c'est l'époque où nos ancêtres ne chassaient pas encore le renne, mais commençaient déjà à orner les grottes et à se livrer à un certain nombre d'activités pastorales tout à fait honorables. Et on était déjà au paléolithique supérieur. Et il est très vraisemblable qu'il explose périodiquement comme ça, avec des conséquences qui sont encore assez mal connues. Toutes sortes de phénomènes explosifs ou de phénomènes implosifs sont découverts. On est en train d'acquérir la certitude de ce que ce phénomène qui avait été prévu théoriquement il y a 30 ou 40 ans, mais dont on ne savait pas s'il avait une réalité, est très probablement réel, à savoir une étoile qui est tellement dense que elle s'effondre indéfiniment sous son propre poids. Bien qu'elle atteigne dans son centre des températures gigantesques, bien que s'y produisent des explosions nucléaires qui voient apparaître des particules à extrêmement haute énergie, du genre qu'on ne voit pas dans les laboratoires ou même dans les rayons cosmiques, la gravitation est la plus forte et elle s'effondre sans fin, aboutissant à ce stade difficile à imaginer, mais réel. Enfin, réel, on n'en est pas encore sûr, mais pour ma part, je crois que c'est de plus en plus probable. Dans lequel, donc, la gravitation a atteint un tel degré que, conformément aux lois de la relativité générale, toutes les ondes, de quelque nature qu'elles soient, et notamment la lumière, ne peuvent plus s'échapper et tournent en rond autour de cette étoile, qui devient définitivement invisible pour l'extérieur, ou plus exactement, qui n'est sensible à l'extérieur que par son champ de gravitation, parce qu'elle peut encore capter des particules qui tombent vers elle et qui ne peuvent jamais plus ressortir. Ce n'est qu'un des aspects, il y en a peut-être mille autres, de phénomènes radicalement irréversibles qui s'accomplissent. On ne voit pas du tout actuellement la possibilité d'un majestueux cycle de l'univers qui durerait 20, 30, 50 milliards d'années, et après quoi ça recommencerait plus ou moins. On est au contraire en face de phénomènes, encore une fois, à caractère apparemment complètement irréversible, et qui ne peuvent pas se renverser dans aucune... Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que dans 50 ans, on n'en saura pas davantage et que les idées changeront peut-être encore. La science progresse de telle sorte que les théories qui viennent les dernières sont les meilleures parce qu'elles expliquent plus de faits que les précédentes. Mais de toute façon, ce n'est pas une espèce de jeu de qui où une théorie renverse une autre, où Einstein a fait Newton KO et où maintenant Einstein est encore champion du monde, mais ça ne durera plus très longtemps. C'est pas ça qu'il faut voir. La théorie de la relativité intègre la théorie de Newton comme cas particulier, et il en est de même pour tout progrès de la connaissance de l'univers. Cette connaissance donc révèle de plus en plus une évolution irréversible, ce qu'on peut considérer, à mon avis, comme une victoire de la méthode dialectique. C'est l'occasion d'expliquer ce que c'est que la dialectique. La dialectique comme méthode a été introduite dans la pensée humaine par Hegel, qui n'était pas toujours si ridicule que tout à l'heure, et qui même était d'une profondeur exceptionnelle la plupart du temps, sauf qu'il avait le grand défaut, comme l'a expliqué Marx, de marcher la tête en bas, enfin pas lui. Lui était un très bon bourgeois de Berlin, qui vivait une vie extrêmement prosaïque, mais sa théorie marchait la tête en bas, c'est-à-dire qu'elle mettait à la base l'idée, laquelle avait, par je ne sais quel processus mystique, engendrer l'univers matériel, poser en face d'elle l'univers matériel, et ensuite, comme cet univers matériel qu'elle avait extrait d'elle-même, elle ne le comprenait plus, elle en avait entrepris la reconquête, jusqu'à le pénétrer d'idées ou d'esprit à travers une série de stades successifs. Renversons cette théorie et nous avons l'univers matériel, la base de tout le développement, c'est la matière, et sur cette base se sont développées, entre autres choses, des idées dont le développement est expliqué par l'histoire. Mais la méthode dialectique, c'est la chose suivante. Définissons d'abord la pensée formelle. La pensée formelle se résume. La pensée formelle est symbolisée par la fameuse affirmation de la logique formelle, qui n'est pas aussi absurde qu'elle en a l'air, que A égale A. A égale A, c'est-à-dire, comme le fait remarquer Trotsky critiquant cette méthode, il faut d'abord comprendre que ça n'est pas ridicule, que ça a constitué un immense progrès pour la pensée humaine de dégager l'idée que A est égal à A et non pas à autre chose que A. C'est-à-dire de discerner les idées, les notions, les concepts comme distincts les uns des autres. À partir de la pratique qui a permis de reconnaître que les objets matériels que travaillait l'homme pour satisfaire ses besoins, même avec les méthodes les plus primitives auxquelles il se heurtait, a permis de reconnaître que ces objets, ces corps solides, étaient distincts les uns des autres et ne se mélangeaient pas. Dans toute la pensée primitive, vous n'avez pas cela, au contraire. Vous ne savez jamais si cet arbre n'est pas cet autre arbre, ou si l'idée même n'existerait pas chez un primitif que, par exemple, cet arbre auprès duquel il est passé, dans 8 jours après, ce sera le même arbre, c'est une question qui n'a aucun sens précis pour lui, ni de le distinguer d'un autre arbre, mais bien autre chose de genre. Arriver à comprendre que les objets sont distincts les uns des autres, qu'un objet est identique à lui-même parce qu'il n'est pas identique aux autres, et que par là même les notions, les concepts qu'on dégage de l'étude de ces objets sont distincts les uns des autres et peuvent être classés, séparés, donc qu'on peut les connaître dans une certaine mesure lorsqu'on les a classés en catégories, lorsqu'on les a mis dans différents tiroirs, les petits et les grands, les durs et les mous, et ainsi de suite. Ça a été la conquête la plus saillante des milliers et milliers d'années d'histoire de préhistoire de l'humanité, une conquête majeure. Cela a permis de dégager peu à peu l'étude de la réalité, de la conception mystique selon laquelle tout est dans tout, selon laquelle il y a participation de chaque être vivant à l'univers entier, et des choses de genre qui ne permettaient en aucun cas de progresser et de comprendre l'univers matériel qu'on avait en face de soi. Donc, ce n'est pas ridicule l'affirmation que A égale A, ça a constitué un grand progrès, le point de départ de la plus puissante logique qu'a élaborée l'humanité avant la dialectique, c'est-à-dire d'une logique qui a régné d'abord sur l'Antiquité grecque, puis redécouverte mais à un niveau inférieur sous forme de scolastique sur le Moyen-Âge, et n'a été dépassée en fait que par une pensée qui était dialectique sans être consciente de l'être et sans le dire, celle des plus grands philosophes du XVIIIe siècle notamment, déjà certains prédécesseurs. Ouvrez un livre de Diderot par exemple, et vous vous apercevez, ouvrez Jacques le Fataliste, qui est enfin, personnellement celui que je préfère, que je saurais trop vous recommander de lire, parce qu'en plus ces gens-là savaient parler de choses sérieuses sans emmerder le monde, contrairement aujourd'hui, vous ne pourrez pas trouver un philosophe qui se respecte, qui vous parle dans le langage que tout le monde comprend et qui ne se considère pas comme d'autant plus sérieux qu'il est plus emmerdant. Si vous voulez savoir ce que je veux dire, vous n'avez qu'à ouvrir Heidegger ou même Jean-Paul Sartre. C'est prodigieusement emmerdant. Essayez un peu d'ouvrir l'être et le néant de Sartre, qui est d'ailleurs bien passé de mode, qu'on considérait comme génial il y a 20 quelques années. Essayez d'ouvrir Heidegger si vous allez y comprendre quelque chose, mais si vous ne comprenez pas, ça n'est pas nécessairement parce que vous êtes stupide, ça peut être aussi parce que ça ne veut strictement rien dire. Et en fait, depuis que la philosophie s'est séparée définitivement du savoir réel, c'est-à-dire des connaissances réelles sur la nature et sur l'homme, elle devient de plus en plus une répétition et un enchaînement de mots dépourvus de signification spécifique. La preuve, c'est que chaque philosophe attribue au mot qu'il emploie un sens particulier différent de celui d'un autre philosophe,
et que chaque philosophe est fermé dans son système, lequel n'explique pas les autres et lequel ne se justifie que lui-même, à condition toutefois qu'on reste à l'intérieur, parce que dès qu'on en sort, il s'effondre. Diderot, lui, n'éprouvait pas le besoin d'être emmerdant pour expliquer des choses sérieuses et profondes. Pour démontrer, par exemple, une conception matérialiste de l'univers, il écrivait la lettre sur les aveugles, et il démontrait à partir de l'expérience qu'ont les aveugles du monde en le touchant, que la réalité du monde, c'est sa matérialité. Il ne s'exprimait pas ainsi, mais c'est précisément ce que Lénine, plus tard, définira comme étant le matérialisme. La réalité du monde, c'est qu'il est matériel. Et sa matérialité, c'est sa réalité. Le monde est réel. Le monde extérieur est réel, et dire qu'il est matériel, c'est dire qu'il est réel, dire qu'il est réel, c'est dire qu'il est matériel, c'est-à-dire qu'il est l'objet, qu'il est soumis à des lois objectives, et que l'homme ne peut pas le modifier à volonté, mais seulement en connaissant ses lois, en les étudiant, en apprenant à les connaître, et ensuite à les utiliser à son profit. Diderot est incontestablement dialectique, ça n'est pas un penseur qui pense que toute pensée se réduit à A égale A. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il mettait au centre même de sa conception les êtres vivants, notamment cette phrase que le prix Nobel Jacob, auteur d'un ouvrage à mon avis excellent sur la logique de la vie, qui est une histoire des idées en biologie, a pris en exergue, à savoir, Diderot dit, donnez-moi un œuf, avec cela je réfute toutes les religions. Je ne sais pas le terme exact qui m'échappe en ce moment, mais c'est le sens. En effet, de l'œuf naît l'être vivant, il n'y a plus besoin de Dieu pour le créer, il naît en fonction de processus qui n'étaient pas du tout connus du temps de Diderot, mais dont Diderot savait pourtant qu'ils étaient matériels et explicables par les lois de la nature. Toutefois, la dialectique fait son entrée officiellement avec Hegel. Arrêtons-nous un instant à A égale A pour rappeler ce qu'en dit Trotsky. Je signale aux camarades qui penseraient que je m'égare dans des sphères qui ne sont pas celles d'une école magique, je ne leur défends pas de penser cela. S'ils le pensent, ils ont le droit, et ils ont surtout le droit de le dire s'ils le pensent, et même le devoir. Mais je veux m'expliquer vis-à-vis d'eux. L'expérience montre que dans toute grande discussion entre révolutionnaires et révisionnistes, à chaque étape, la discussion commence généralement par des questions de politique immédiate, par l'attitude qu'on doit avoir sur la question de la grève générale, par exemple dans la discussion dans la social-démocratie au début de ce siècle, au moment où le terme révisionnisme a été employé pour la première fois à propos de Bernstein. Bernstein qui expliquait que dans le mouvement ouvrier, le but final, c'est-à-dire la révolution, ce n'est rien, et c'est le mouvement qui est tout, c'est-à-dire les réformes quotidiennes. Elle commence à partir de questions de cet ordre, dans le cas de Bernstein aussi, à partir d'une discussion qui ressemble singulièrement à celle que nous avons aujourd'hui à propos des forces productives, mais qui portait sur la question de savoir si le capitalisme pouvait ou non progresser indéfiniment. Ce que Bernstein soutenait, d'après, effectivement, le capitalisme à ce moment-là sortait d'une longue période d'expansion au cours de la plus grande partie du 19e siècle. Il y avait eu ensuite une période de, non pas de contraction, mais de développement lent qui avait marqué le passage à l'impérialisme, et puis à la fin du siècle, brusquement, a commencé une nouvelle période d'expansion, la dernière, au début de l'impérialisme, avec l'achèvement de la conquête du partage du monde entre les grandes puissances, il y a eu une dernière période d'expansion qui s'est terminée vers 1910 ou 12, je ne me rappelle plus. Et ensuite qui a débouché sur la Première Guerre mondiale, marquant le début de l'époque de la révolution prolétarienne, de l'époque de la crise historique finale du capitalisme. Alors donc Bernstein prenait appui sur cette expansion, il disait le capitalisme s'étendra indéfiniment. On se querellait à ce sujet sur l'interprétation correcte à donner d'analyse qu'avait faite Marx, etc. Et puis, la discussion a fini par déboucher sur la question de la dialectique matérialiste, et Bernstein a été non pas le premier, mais l'un des premiers à dire « ça n'a rigoureusement rien à voir avec le mouvement ouvrier, avec une étude scientifique de la société, etc. » En face de lui,
les futurs dirigeants de la gauche allemande et fondateurs du Parti communiste allemand défendaient la dialectique Franz Mehring et Rosa Luxembourg. On a revu ça 20 fois depuis, et en particulier la dernière grande discussion à laquelle Trotsky a participé personnellement dans la 4e internationale, la discussion qui s'est déroulée dans la section américaine en 1940 entre Trotsky et la majorité d'un côté et la minorité dirigée par Max Chartmann de l'autre, et qui portait sur les questions les plus fondamentales du programme, à savoir sur la nature de classe de l'Union soviétique, ce qui en fait mettait en cause la nature de classe des organisations ouvrières, et l'ensemble des conclusions qui sont à la base du programme de la 4e internationale. Et cette discussion a très rapidement débouché sur la question de la dialectique. Malheureusement, ces textes sont traduits en français uniquement sous forme radiotée, je ne sais pas s'ils sont disponibles actuellement, le livre n'a pas encore été traduit, c'est bien dommage. En tout cas, James Burnham, qui à cette époque avait fait un séjour de quelques années dans le parti trotskiste, pour ensuite, une fois qu'il l'a quitté, s'en éloigner très vite et passer à l'extrême droite du parti républicain, James Burnham donc expliquait que la dialectique, personne n'a jamais su ce que c'était. Alors Trotsky lui a dit, il a entrepris de lui expliquer à lui et aux autres ce qu'était la dialectique. Et il analyse A égale A. A égale A, dit-il, de toute façon, même si on entend cela non pas dans le sens des objets que symbolisent le hard gauche et le hard droite, mais même des simples caractères d'imprimerie, eh bien vous pourrez vous rendre compte que ça n'est vrai que avec une certaine approximation, dans certaines limites. Si on regarde ces caractères à la loupe, on va certainement trouver de très nombreuses différences. Peut-être alors que A égale A veut simplement dire que A est égal à lui-même. Il est incontestable qu'à un instant donné, A est égal à lui-même, c'est incontestable, mais ça ne nous mène pas très loin. C'est une de ces vérités absolues dont avait parlé Engels dans l'Antiduring, une vérité absolue. Elle est absolument vraie, de la même manière qu'il est absolument vrai que la bataille de Marigny a eu lieu le 1515, je ne sais plus. Marignan, oui, oui. Vous voyez, je vous ai dit que j'étais pas loin du bout. Bon, alors enfin, elle a eu lieu à une date que vous venez de dire, je n'avais pas fait attention. Donc, disons, Waterloo a eu lieu le 18 juin 1815, sans devoir le savoir, à cause entre autres des Misérables, de Morneplaine, et ainsi de suite. Bon, c'est une vérité tout à fait absolue, c'est-à-dire que, quels que soient les progrès que réalise la science, Waterloo aura toujours eu lieu le 18 juin 1815. Bien entendu, cette vérité absolue est rigoureusement relative, c'est-à-dire qu'elle est relative à un calendrier choisi, à un certain nombre de définitions, y compris de ce que c'est que Waterloo, et que finalement, cette connaissance, si on la creuse plus loin, va s'avérer comme étant relativement vraie et relativement fausse. Par exemple, ça n'a pas duré toute la journée du 18 juin, par exemple, ça ne s'est pas étendu sur la Terre entière le 18 juin, et même sur le champ de bataille, selon les heures, la bataille y avait lieu ou pas, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là aussi, ces vérités absolues ne sont des vérités que de première approximation. Toutefois, un objet à un instant donné est identique à lui-même, on peut admettre cette vérité absolue et la mettre dans le musée du formalisme. Mais précisément, la question est là. La pensée formelle, celle des idées claires et distinctes de Descartes, c'est sa méthode, celle des objets bien séparés qu'on peut classer dans des tiroirs qui n'ont pas de problème de communication entre eux, c'est la méthode qui convient pour étudier un phénomène en modification très lente. Si vous voulez, prenons une photographie de l'univers à un instant donné, ou d'une partie de l'univers. Là, les objets, ils seront distincts et figés une fois pour toutes, ils ne changeront pas et ils ne se mélangeront pas. Ils resteront identiques à eux-mêmes et distincts des autres. La pensée formelle, c'est la pensée qui correspond à la photographie, à une situation statique, à l'absence de changement ou à un changement extrêmement lent. Bien entendu, il peut y avoir un mouvement, mais ce mouvement est cyclique. Par exemple, le système solaire, avec les planètes autour du Soleil, qui, en première approximation, au moins, reviennent toujours dans les mêmes positions respectives, ce système solaire, la pensée formelle semble suffire à l'étudier, puisqu'il est régi par des lois qui en assurent la permanence absolue, sauf des changements qui sont tous cycliques et qui s'annulent au bout d'un certain temps. Dès qu'on étudie, par contre, je dis tout de suite que c'est illusoire et que le système solaire est en réalité en évolution, qui n'a pas toujours existé, qui n'existera pas toujours, et que beaucoup de positions relatives des planètes se modifient de façon irréversible. Par exemple, la rotation de la Terre se ralentit sans cesse, la rotation de la Lune autour de la Terre aussi, et on a pu calculer que dans un temps assez lointain, je crois 50 milliards d'années, la Lune éclatera et il y aura toutes sortes d'ennuis. Et à ceux qui seront en dessous d'ailleurs aussi peut-être, mais enfin d'ici là ils auront bien trouvé un moyen pour régler ce genre de questions. Ce qui est important de toute façon, c'est que c'est même ce système solaire qui semblait pouvoir être étudié par une pensée statique, par une pensée qui analyse des objets comme distincts les uns des autres, identiques à eux-mêmes, et qui par conséquent emploie des notions, des idées pour les étudier qui sont elles-mêmes distinctes, séparées soigneusement les unes des autres et par contre identiques à elles-mêmes, est une notion qui n'est vraie qu'en première approximation. La masse des planètes ne cesse de changer, d'abord celle du Soleil qui diminue sans cesse puisqu'il disperse sa masse sous forme de lumière dans l'espace, il le fait beaucoup plus lentement que d'autres étoiles, mais ça peut donc durer des milliards d'années, mais il le fait quand même. La masse des planètes ne cesse de changer parce qu'ils reçoivent d'une part des météorites de l'extérieur, parce que d'autre part ils perdent de la substance par toutes sortes de phénomènes, etc., etc. Leur distance change, et finalement il est même possible, en tout cas on n'en sait rien à l'heure actuelle, que même des lois plus fondamentales comme la gravitation se modifient peu à peu, enfin que leur intensité se modifie peu à peu au cours des milliards d'années. Donc, là encore, l'impression de stabilité absolue n'est que relative, c'est une première approximation. La pensée formelle est donc la pensée qui convient à une étude en première approximation de phénomènes en changement lent. Elle n'est pas faite pour l'étude du changement en soi. En effet, pour qu'un objet A change, il faut qu'il devienne autre chose que A. S'il reste identique à A, il ne change pas, c'est clair, c'est même du Laplace, c'est-à-dire de la pensée formelle. S'il change, et s'il change profondément, s'il change de nature, comme une étoile qui explose dans l'espace, ou encore comme un œuf qui donne naissance à un nouvel être vivant, à un poulet qui n'est pas exactement l'œuf. Alors s'il y a de tels changements brusques, rapides, irréversibles, A devient brusquement autre chose que A, A devient non-A, non-A sort de A. Telle est l'idée la plus fondamentale de la dialectique, c'est-à-dire que la contradiction n'est pas, comme dans la pensée formelle, le signe de l'erreur, de la faute, la contradiction est au contraire la loi la plus profonde d'un univers en changement, d'un univers en modification. La dialectique, comme le dit Trotsky, qui avait le génie, plus que peut-être aucun autre dirigeant marxiste, de la formule frappante et définitive, la dialectique, c'est la logique de l'évolution. C'est la logique de l'évolution, c'est-à-dire la logique d'un monde en transformation. Et alors que la pensée formelle permet encore d'aborder les changements lents, alors qu'elle convenait encore à ces conceptions du 19e siècle, selon lesquelles l'univers décrivait à travers de nombreux milliards d'années un cycle majestueux et puis tout recommencer ensuite plus ou moins, elle ne convient plus du tout non seulement à un univers en changement rapide, et il est incontestable à mon avis, s'il y a ici des étudiants en physique qui ne seront peut-être pas d'accord, et c'est leur droit, et en tout cas les physiciens ne le seraient pas, parce qu'ils ne se donnent jamais la peine d'étudier sérieusement la dialectique. Mais il y a certainement, à mon avis, des problèmes devant lesquels la physique bute actuellement, entre autres raisons, par l'absence d'entraînement de ceux qui les étudient à la dialectique. Ce n'est pas la seule raison, je ne pourrais pas m'étendre là-dessus, certainement. Il y a aussi des expériences qui manquent, parce que de plus en plus les moyens matériels de l'expérience manquent. parce que dans cette société prédominamment scientifique, les crédits de la recherche fondamentale sont réduits dans toutes les grandes puissances à très peu, et que ça pose toutes sortes de problèmes. On bute devant une série de choses parce qu'on ne peut pas faire les expériences qui permettraient de répondre à la question si l'univers est de telle ou telle façon. Mais en plus, il y a aussi des obstacles qui sont mentaux, c'est-à-dire qui sont dans les concepts qu'emploient les physiciens, alors que, en particulier, l'étude des particules subatomiques, des particules qu'on n'ose plus appeler élémentaires, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y en a plusieurs centaines, et que justement on essaie d'élaborer des théories qui ramènent ces centaines de particules à 3 ou 4, et que c'est ces théories-là qu'on ne peut pas vérifier à l'heure actuelle. Mais de toute façon, ce sont des phénomènes de changements brutaux, rapides, explosifs, ou implosifs d'ailleurs, c'est-à-dire que les particules peuvent aussi bien se fondre que se séparer à travers un processus inverse, eh bien, la pensée dialectique s'impose. Et elle s'impose encore bien plus lorsqu'il s'agit d'étudier l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que la pensée formelle, correspondant ici à peu près à la démocratie bourgeoise, correspondant à l'idée que le progrès est un changement continu et que l'humanité, tout compte fait, malgré quelques crises et quelques ennuis, progresse continuellement, régulièrement, selon une courbe plus ou moins continue, avec quelques accidents. Telle est la pensée et la conception que se font la plupart des penseurs bourgeois libéraux, démocrates, de l'évolution. Une évolution sans accident, ou plus exactement une évolution dans laquelle ce qui rompt la courbe du progrès, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. C'est une erreur du développement, c'est un mal, c'est quelque chose qu'on peut omettre dans l'étude parce que de toute façon, c'est pas important. C'est un accident, c'est un malheur, suivant le cas, suivant qu'il s'agit d'un moraliste, alors c'est le mal. S'il s'agit d'un philosophe qui laisse provisoirement la morale de côté, alors c'est le hasard pur, c'est-à-dire quelque chose qui ne devrait pas exister au fond, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, et de toute façon ça ne rompt pas finalement, en moyenne et tout compte fait, le progrès statistique. Les technocrates d'aujourd'hui essayent de nous professer la même chose, mais ils ont naturellement beaucoup de difficultés devant les masses innombrables d'hommes privés de tout moyen de satisfaire leurs besoins, y compris leurs besoins alimentaires, et voyant leur niveau de vie non pas progresser, mais régresser à travers les années, ils ont de plus en plus de mal, mais c'est néanmoins ça leur conception. C'est ça leur conception. La dialectique, au contraire, entraîne la conclusion qu'il y a des changements brusques, des retours en arrière, des bonds dans l'évolution et des ruptures brusques, et inversement des régressions brutales. C'est la logique selon laquelle A change, A devient non-A, et par conséquent la contradiction, qui dans la logique formelle est le signe de l'erreur, devient au contraire le moteur même du changement. A devient non-A, et puis non-A, mais dans non-A vous retrouvez tous les éléments de A, dans le poulet vous retrouvez tout ce qui... Enfin, tout le monde, c'est d'ailleurs pas vrai, mais vous retrouvez l'essentiel de ce qu'il y avait dans le germe, sinon dans l'œuf, mais vous le retrouvez organisé d'une manière radicalement différente, de telle sorte que si vous n'aviez jamais vu un œuf ni un poulet, et qu'on vous présente les deux séparément, vous ne penseriez jamais que c'est le même être dont l'un a donné naissance à l'autre. C'est la pensée formelle, d'ailleurs, ne peut pas arriver à saisir, elle peut décrire certains aspects, elle ne peut pas arriver à saisir un phénomène de genre. Et bien entendu, il serait possible de prendre des exemples dans l'histoire qui seraient plus grandioses et de parler de la Révolution française, parce que c'est précisément la Révolution française qui a été l'un des éléments décisifs pour inspirer à Hegel la dialectique. La Révolution française l'a venue en présence d'un de ces changements brusques, d'un de ces tournants brusques dans l'histoire, imprévus et imprévisibles, et cela est très profond et significatif, ceux-là même qui ont le plus contribué à la préparer, des hommes précisément comme Diderot ou comme les matérialistes petits bourgeois ou bourgeois du XVIIIe siècle, n'avaient absolument pas prévu qu'il y avait au bout la guillotine pour Louis XVI, et dans pas tellement longtemps, puisqu'ils sont morts 10, 20, 30 ans, avant que cette rupture dans l'évolution de survie dans la colonne vertébrale du dernier Bourbon, pas le dernier malheureusement, enfin, c'est un détail, donc ne survienne. La Révolution française avait inspiré profondément Hegel dans sa jeunesse, ce qu'on ne sait pas en général, ou qu'on ne dit pas, et a été l'une des composantes de sa conception dialectique de l'histoire et de l'univers. Dialectique donc dans laquelle la contradiction n'est plus le signe de l'erreur, mais au contraire le moteur même du développement, en se changeant en non-un, puis passant à un stade supérieur qui réintègre toutes les déterminations de A et non-un, mais en les réorganisant totalement sur un plan supérieur d'évolution. C'est voilà l'essence de cette pensée qui mérite d'être étudiée, qui n'est d'ailleurs pas un objet d'étude en soi. Créer les traités de dialectique, ce sont les philosophes staliniens russes qui en ont écrit un certain nombre, c'est vraiment affreux. Créer les traités de dialectique et étudier la dialectique chez les grands théoriciens dialectiques, c'est-à-dire les théoriciens révolutionnaires du marxisme, étudier la dialectique dans les faits de la révolution de Lénine, lorsque Lénine explique que l'État ouvrier est en même temps un État bourgeois sans bourgeoisie. Étudiez-la dans la révolution trahie, lorsque Trotsky explique que en Union soviétique règne l'État ouvrier contre-révolutionnaire, et lorsqu'il ajoute ensuite une définition complète de l'Union soviétique, une définition non pas complète, une définition relativement satisfaisante de l'Union soviétique, il va en donner une dans le chapitre « Qu'est-ce que l'URSS ?» ou dans le chapitre « Où va l'URSS ?» je ne me rappelle plus, vers la fin du livre, et elle tient une page entière comprenant 10 caractéristiques successives, après quoi il nous dit « Effectivement, cette définition est peu satisfaisante pour un penseur formel, je le reconnais, il me reste à présenter mes excuses au penseur formel si la réalité est plus compliquée que ça, est plus compliquée que ce qu'il voudrait qu'elle soit. » Cette définition qu'il en donne correspond à la réalité du phénomène d'un État ouvrier qui, pour la pensée formelle, c'est ça, un État ouvrier, c'est un État qui est au service des ouvriers, ou c'est un État dans lequel les ouvriers ont le pouvoir. C'est faux, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. D'autre part, il ne s'agit pas d'un État ouvrier quelconque, mais d'un État ouvrier issu d'une révolution dans un pays arriéré, dans un entourage impérialiste et qui est resté isolé, etc., etc., etc. Quand on poursuit les déterminations concrètes, successives, particulières, la particularisation du phénomène, la pensée formelle, pour la pensée formelle, le particulier est simple, le général est compliqué. C'est la méthode encore de Descartes qui dit « Divisons les difficultés en autant de parties élémentaires qu'il le faudra pour que chaque partie devienne parfaitement claire par elle-même. » La conception dialectique, au contraire, nous apprend et nous montre que le particulier, l'individuel, n'est pas du tout un élément, un atome, un objet, un atome du point de vue métaphysique, un objet simple qui est complètement défini avec très peu de caractéristiques. Au contraire, dans l'individuel, on va retrouver tout ce qui existe dans le général, mais sous des formes particulières. Que dans une grève, c'est d'ailleurs ça qui nous oppose aux penseurs gauchistes et bourgeois, pour les gauchistes et les bourgeois, prenons cet exemple. Si je ne suis pas clair à un moment quelconque, vous avez non seulement le droit, mais le devoir de m'interrompre tout de suite, parce que c'est pas la peine que je parle là, que j'épuise les dernières heures d'une existence menacée, parler devant des gens qui ne comprendraient pas ce que je dis, c'est vraiment le temps perdu. Donc je vous demande avec insistance, si ce que je vous dis n'est pas clair, n'ayez pas peur, levez la main, dites ça va pas, bon, je ne m'offenserai certainement pas. Je m'offenserai beaucoup, par contre, si vous m'écoutez sans me comprendre et que je m'aperçois après que vous m'écoutez soit par politesse, soit par crainte, soit je ne sais pas exactement quoi au juste, enfin, comme ça, ou alors vous n'avez pas écouté, que vous avez eu seulement l'air alors que vous dormiez ou que vous viviez la lecture des dernières informations ouvrières. Alors ça va pas. Alors je vais essayer donc d'expliquer ce rapport entre le général et le particulier sur un exemple. Pour les penseurs, les sociologues bourgeois, et aussi bien les gauchistes, CFD-tisans, autogestionnaires et ainsi de suite, on peut étudier les ouvriers d'une usine. Et cette usine, cette entreprise, comme un objet d'étude particulier. Il y a toute une école de sociologues qui est spécialisée là-dedans, qui s'appelle le même micro-sociologue, et qui étudie les rapports des ouvriers entre eux et avec le patron dans le cadre d'une entreprise délimitée et séparée de tout le reste. Ils arrivent naturellement d'ailleurs toujours à la conclusion que ce n'est pas du tout ce qu'a analysé Marx, effectivement que à partir du moment où vous isolez l'entreprise, vous êtes poussé par une logique irréfutable et inéluctable à définir les intérêts de l'entreprise. À ce moment-là, vous avez trouvé le terrain commun, les intérêts communs entre les ouvriers et les patrons, ce sont les intérêts de l'entreprise. C'est le terrain de l'entreprise, c'est l'entreprise communauté. L'entreprise qui est supposée être étudiée parce qu'elle est plus simple que l'économie ou la société capitaliste dans son ensemble. La conception de Marx est radicalement opposée. Pour lui, l'économie française, par exemple, c'est déjà une abstraction. À plus forte raison, une entreprise, c'est une abstraction tout à fait superficielle dans l'économie capitaliste. En effet, si l'on veut définir un individuel dans l'économie capitaliste, ce qui est individuel, c'est le capital, c'est-à-dire un capital propriété d'un individu ou d'un patron ou d'une société anonyme déterminée qui a une certaine réalité comme séparée des autres. D'ailleurs, une réalité néanmoins limitée parce que, comme nous le verrons dans les exposés sur l'économie, les capitaux ne sont pas aussi séparés les uns des autres et aussi indépendants les uns des autres dans la réalité qu'ils le sont dans l'idée que s'en fait le propriétaire capitaliste du capital, qui croit que son capital est à lui, que Charbonnier est maître chez lui, et également M. Dreyfus chez Renault, et que c'est son capital, indépendant de tous les autres. Mais de toute façon, la réalité, c'est pas l'entreprise, d'abord, c'est le capital. Et le capital est investi à la fois dans cette entreprise-là et dans 20 autres qui n'ont aucun rapport. Par exemple, une société anonyme de chemin de fer aux États-Unis investit généralement de beaucoup la majeure partie de son capital dans n'importe quoi, dans des fabriques de vêtements, dans des fabriques de jouets pour enfants, elle travaille pour l'aérospatiale et mille autres choses encore, suivant qu'il sorte des occasions d'investissement fructueux pour son conseil d'administration. L'argent, le capital, est déplacé, retiré de telle entreprise, investi dans telle autre, la société anonyme reste debout, mais elle n'investit plus du tout peut-être dans cette entreprise que nos sociologues étaient en train d'étudier. Autrement dit, étudier une entreprise, c'est faire tout simplement abstraction du capital et du capitalisme. C'est donc se borner à des remarques les plus banales qui soient, du genre de celles qui pourront porter sur l'aération des salles ou sur les réflexions que font les ouvriers sur l'agrément ou non du travail. Et vous savez que de ce point de vue, il suffit de faire un questionnaire convenable d'enquête et on obtiendra les réponses qu'on voulait obtenir, et sûrement pas la lutte des classes, parce que les ouvriers ne déclarent pas à toute personne qui les rencontre qu'ils sont engagés, que leur classe est engagée dans une lutte historique, n'est-ce pas, même s'ils le pensent. Alors évidemment, vous aurez donc l'abstraction de l'individuel. Or, c'est sur cette base précisément que s'est développée toute la mythologie actuelle gauchiste, autogestionnaire, CFDTiste, sur le syndicat de la section syndicale. C'est sur cette base précisément que s'est développée toute la mythologie actuelle gauchiste, autogestionnaire, CFDTiste, sur le syndicat de la section syndicale d'entreprise et la reconnaissance officielle d'une section syndicale d'entreprise, sur l'autogestion, c'est-à-dire l'autogestion par les ouvriers de cette entreprise, dans cette entreprise tout seul, toute seule, le capitalisme restant par ailleurs debout, bien tranquille, l'État capitaliste, les CRS, les banques, l'ensemble des rapports de production et du marché capitaliste, elle résulte de cette méthode formelle qui considère qu'on doit séparer en objet élémentaire, donc en entreprise, l'unité de la société capitaliste. La méthode de Marx est opposée. Pour lui, la réalité la plus profonde, c'est la totalité de la société capitaliste mondiale, autrement dit, la lutte mondiale entre les classes. Du point de vue économique, c'est l'économie capitaliste mondiale, de telle sorte que, par exemple, l'économie française ne peut pas du tout être étudiée dans les frontières de l'Hexagone, absolument pas, sous peine de rien comprendre du tout. Elle est au contraire le produit de l'économie capitaliste mondiale se manifestant, s'exprimant et se traduisant dans le cadre historique d'une nation déterminée qui est elle-même le produit de la lutte des classes à l'échelle mondiale pendant les siècles qui ont précédé le capitalisme, ou plus exactement pour investir de l'ascension du capitalisme au pouvoir, ce modèle en même temps d'une nation, et nation étant un phénomène typiquement capitaliste sous la forme sous laquelle nous les connaissons, c'est-à-dire un marché national pour une bourgeoisie nationale au sein duquel les produits peuvent circuler d'un bout à l'autre sans se heurter à des douanes intérieures, à des seigneurs féodaux pillards et à autres entraves à ce que la bourgeoisie a pris comme slogan la liberté du commerce. Donc l'économie nationale, et l'économie française ou allemande, de ce point de vue, elle-même une abstraction, à moins qu'on ne la définisse, qu'on la détermine à partir de l'économie mondiale, mais on retrouvera alors dans l'économie française tous les traits fondamentaux de l'économie mondiale, mais modifiés, transformés, articulés autrement les uns avec les autres, en fonction du cadre particulier dans lequel la totalité s'exprime, cadre particulier qui est lui-même non pas tombé du ciel, mais même pas de la géographie, sinon il y a très longtemps, mais de l'histoire des siècles antérieurs, tel qu'il l'a modelé. Il est évident que l'économie nationale après la Révolution française n'est pas la même que celle de Louis XIV. Et pourtant, elle est entièrement intégrée au marché capitaliste mondial, que ce soit sous Louis-Philippe ou que ce soit sous Napoléon III. La grande question est celle du protectionnisme, du libre-échange, avec l'ensemble des conséquences. Toute la politique extérieure européenne tournant finalement autour de cette question au milieu du XIXe siècle. Bon, alors, est-ce que j'ai bien fait comprendre cette idée fondamentale que la pensée dialectique, méthode d'étude de l'évolution, la société évolue comme une totalité. Toutes ses parties sont interdépendantes et réagissent les unes sur les autres. Il ne faut pas croire qu'il s'agit là de conceptions abstraites, nous sommes au cœur même de la question de la révolution permanente. La conception des théoriciens de l'évolution graduelle, de l'évolutionnisme bourgeois ou petit bourgeois, cette conception est à la base aussi de la pensée des sociodémocrates. Pour eux, en ce qui concerne Marx et Engels, évidemment ils ne pensaient pas cela, mais ils pensaient néanmoins que la révolution socialiste vaincrait en Europe avant que les pays arriérés n'aient posé aucun problème de plus que ceux qui posaient à ce moment-là, et que le prolétariat ayant pris le pouvoir en Europe viendrait ensuite en aide aux pays arriérés pour accélérer leur développement vers la civilisation. Ils n'ont donc pas eu à se poser de problème colonial dans leur ensemble, qui ne s'est d'ailleurs pas posé à cette époque sous les formes que nous connaissons. Mais pour les sociodémocrates en général, qu'est-ce qu'un pays arriéré sous-développé? Eh bien, c'est un pays qui est en retard, et qui est en quelque sorte la même chose qu'était, disons, la France au XVe siècle, ou au XVIe, suivant l'importance du retard, ou au XVIIe, ou au XIVe, ou au XIIIe, et qui suit le développement avec un certain nombre de siècles de retard, passant plus ou moins par les mêmes stades et reproduisant les mêmes choses qu'on a vu dans le pays avancé, avec tant de siècles d'avance. Telle était la conception des démocrates bourgeois, des républicains bourgeois et aussi des socialistes dans une très large mesure, des socialistes réformistes en tout cas, vis-à-vis des pays arriérés. Ce qu'il faut, c'est qu'un État républicain se penche sur le sort des pays arriérés pour les aider à rattraper plus vite. De toute façon, ils évoluent, ils sont en retard, mais ils suivent le même chemin en gros. Cette conception conduit facilement au socialisme dans un seul pays. En effet, les pays les plus avancés pourront alors réaliser le socialisme dans le cadre de leurs frontières, et puis les autres suivront à un certain stade déterminé, le processus se déroulant toujours dans le même sens, ancien régime monarchique, féodal ou ce qu'on voudra, puis république bourgeoise parlementaire, puis république démocratique avec le suffrage universel, puis finalement, plus tard, le socialisme. C'était ça la conception de la plupart des sociodémocrates réformistes en gros. Or, c'est précisément sur cette conception que les défenseurs du socialisme dans un seul pays chercheront à la fonder. Boukharine, défendant le socialisme dans un seul pays contre Trotsky, écrira, je vous répète pas exactement les mots, mais j'espère ne pas transformer l'idée, si vous le trouverez dans la révolution permanente, il me semble. Et avant que ce soit Radek, d'ailleurs, c'est Boukharine ou Radek dans le cas présent, non, c'est pas Radek, il n'était pas si bête, c'est Boukharine. Il n'était pas si limité et si étroit. Et il capitulait devant Staline, c'était une autre chose, mais ça, peuvent seuls le condamner ceux qui n'avaient pas le revolver de Staline, ceux qui ont eu le revolver de Staline sur la nuque. Ceux-là ont le droit de condamner ceux... Ah, ça y est, il y a au moins un sabotage par séance.
Il n'y a même pas de fait.
Alors, je disais donc, Boukharine dit la chose suivante. Il dit, il y a aujourd'hui beaucoup plus de points communs entre l'Inde et l'Angleterre du point de vue économique que de différences. C'est la pensée formelle selon laquelle l'Inde est en retard d'un certain nombre de siècles, mais quand même elle a beaucoup progressé, elle n'est plus l'Inde du 18e siècle, etc. Trotsky répond, c'est faux. Il s'agissait de savoir sur quoi peut se fonder l'internationalisme du prolétariat, c'est-à-dire sur quoi on peut fonder l'affirmation, le principe que le prolétariat existe d'abord comme classe internationale et non pas comme classe divisée en nations s'opposant les unes aux autres selon les intérêts binationaux. Eh bien, Boukharine essayait de le justifier en disant « il y a beaucoup plus de points communs entre l'Inde et l'Angleterre que de différences. Pour cette raison, le prolétaire de l'Inde et le prolétaire de l'Angleterre ont des intérêts communs beaucoup plus que des intérêts différents. » C'est la pensée formelle typique. A égale A, différent n'est pas la même chose qu'identique, etc. Plus ou moins différent, il y a des variations quantitatives, mais pas des qualités différentes, etc. Trotsky répond, c'est profondément faux. Si l'on examine en soi l'économie anglaise et l'économie indienne, on va trouver exactement le contraire. L'Inde produit presque exclusivement des matières premières et est un pays où 95% agricole. Pour l'Angleterre, elle est à 80%, je ne sais plus combien, à cette époque-là, industrielle. Elle exporte uniquement des machines et des produits fabriqués très développés. Si on poursuit, on s'aperçoit que tous les points sont au contraire totalement différents. Les industries sont ultra concentrées en Angleterre, c'est encore presque uniquement l'artisanat aux Indes, sauf quelques grandes usines de textiles à Calcutta et à Bombay, etc., etc. On peut continuer. Les prolétaires de l'Inde sont des fils de paysans qui travaillent un certain temps à la ville et qui retournent encore à la campagne. Il n'y a pas de génération d'ouvriers, sauf dans un nombre de cas très limité. Par contre, en Angleterre, les familles d'ouvriers sont des familles ouvrières depuis 150, 200 ans ou davantage. Elles ne peuvent même plus retrouver quand elles le sont devenues. On peut continuer la description, ça n'est pas d'ailleurs ces exemples-là que prend Trotsky, je ne me rappelle plus lesquels, mais si vous continuez la description, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup plus de différences que de points communs entre l'Inde et l'Angleterre. Et Trotsky dit, ce qui fonde l'internationalisme prolétarien, au contraire, c'est que l'Inde, prise à part, l'économie indienne ou l'économie anglaise sont des abstractions. La seule réalité, c'est l'économie capitaliste mondiale. On ne peut comprendre le fonctionnement de l'économie indienne ou de l'économie anglaise qu'à partir de l'économie capitaliste mondiale comme totalité organique, comme un organisme unique, exactement comme si Boukharine disait contempler dans des bocaux un poumon humain et un rein humain, disons, ou un autre organe, et disait, après tout, il y a beaucoup plus de points communs que de différences entre le poumon et le rein, il serait facile de lui démontrer le contraire, et l'habitant de Sirius qui descendrait et qui verrait en bocal le poumon d'une part, le rein d'autre part, ne pourrait pas décider, à moins de connaître déjà à fond les lois de la biologie, à ce moment-là, évidemment, il pourrait tricher en quelque sorte, mais sinon, il ne pourrait jamais décider que ça appartient au même être vivant et que ça fait partie d'une même unité, un poumon et un rein, soit en bocal, soit en fonction, et surtout encore fonctionnant. Lorsque le poumon fonctionne et lorsque le rein fonctionne, il semble vraiment qu'il n'y a absolument rien de commun entre ces deux objets vivants, absolument rien de commun. Or, on peut les expliquer, les comprendre, et y compris d'ailleurs comprendre comment ils sont apparus au cours de l'évolution biologique, que si on procède de l'organisme vivant dans sa totalité, dont les organes particuliers, dans le cadre duquel les organes particuliers remplissent certaines fonctions dans le cadre d'une division biologique du travail, c'est pas le terme que les biologistes emploient, mais on peut l'employer cette fois-ci, vous pouvez comprendre la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement du poumon ou du rein, et même sa structure, et même la manière dont ils sont apparus dans l'histoire de la vie, et la question de savoir lequel est apparu le premier, ce que d'ailleurs j'ignore. Et oui, en fait, j'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes stades. Mais de toute façon, vous ne pouvez strictement rien y comprendre si vous ne partez pas de l'organisme vivant comme une totalité, avec ses besoins, avec le fait qu'il se nourrit, qu'il assimile, qu'il désassimile, qu'il respire, etc. À partir de là, vous pouvez comprendre le poumon et le rein, et même leur rapport mutuel, alors que vous ne pouvez absolument... Et vous pouvez à ce moment-là même démontrer à partir du fonctionnement du poumon qu'il faut quelque part un mécanisme du genre du rein, si l'être vivant doit vivre, et inversement. Mais sinon, vous ne pouvez rien y comprendre du tout. Donc, l'internationalisme prolétarien pour Trotsky se fonde sur le fait que l'économie capitaliste mondiale, la société capitaliste mondiale, est une totalité organique à partir de laquelle seulement on peut expliquer ces secteurs particuliers, nationaux, industriels, etc., etc., et non l'inverse. Ça, c'est un trait saillant de la pensée dialectique, de ne pouvoir expliquer le particulier qu'en y retrouvant toute la richesse du général, mais évidemment articulé autrement, remodelé, retransformé. Précisément, c'est toute la difficulté de la politique marxiste, c'est que si nous oublions que toute lutte particulière est par lutte, il faut entendre, à vrai dire, tout ce qui se passe dans la lutte des classes. Une lutte, c'est une grande grève, c'est une manifestation de rue, ce sont aussi des étudiants qui envoient une délégation à l'UER, c'est 20 000 autres choses, y compris un philosophe bourgeois ou stalinien qui vient faire une conférence, même extrêmement pacifique, ça fait partie de la lutte des classes. La lutte des classes ne se règle pas uniquement par la violence, ni même, on va dire, principalement par la violence, bien qu'en dernier ressort, les questions décisives se règlent finalement par la violence, parce que la classe devenue réactionnaire et qui doit céder la place, n'est pas disposée à se laisser démontrer logiquement qu'elle a fait son temps dans l'histoire et qu'elle combat toujours jusqu'au bout. C'est pourquoi la violence intervient en dernier ressort, mais la violence ne peut être efficace et créatrice que si effectivement l'histoire a mûri jusqu'au point qu'il y a simplement à couper les arbres morts, à chasser du pouvoir la bourgeoisie qui a fait son temps et entraîne l'humanité à l'abîme avec elle pour ne pas vouloir céder la place. Bon, mais de toute façon, prenez une lutte particulière de celle que j'évoquais et essayez de voir quelle sera l'intervention des révolutionnaires. Si vous restez au niveau de cette lutte particulière, si vous l'analysez en tant que telle séparément, qu'il s'agisse de la grève Renault, et vous pourriez constater dans la dernière grève Renault exactement chez les centristes et les gauchistes, PSU, CFDT, Ligue communiste, etc., etc., leur méthode c'est exactement celle-là. Ils isolent Renault de la lutte des classes dans son ensemble et ils essayent de définir leur politique à partir de là. D'où des fantaisies du genre de vouloir rendre la grève active. Cet article, par exemple, scandaleux de Lutte ouvrière que j'ai cité, les folles nuits de Billancourt, racontant la bagarre entre les jeunes et les bureaucrates voulant que la nuit on ne fasse pas de musique, et surtout pas de musique moderne, je ne sais pas pourquoi. Et les jeunes voulant absolument au contraire qu'on leur fasse. Enfin, c'est vraiment des sous-annons purement folkloriques, comme si ça avait été ça qui se jouait essentiellement chez Renault. Bien sûr, dans un grand mouvement, il se passe aussi des choses comme ça et bien d'autres. Et elles exprimaient aussi quelque chose. Mais les considérer et les prendre au sérieux comme un point d'insertion pour des révolutionnaires, c'est vraiment perdre complètement de vue la réalité de la lutte des classes. Au contraire, la méthode dialectique suppose de plus en plus que si nous voulons nous insérer correctement dans cette lutte, nous devons partir non pas du problème particulier de cette lutte. Pourquoi ? Parce que si nous partons du problème particulier de cette lutte, si nous l'isolons, nous allons inéluctablement être tentés de lui chercher une solution particulière dans son cas particulier. Donc de devenir réformiste même sans le savoir. Donc de nous adapter à la société globalement prise. C'est inéluctable, il n'y a pas moyen d'y échapper. Si vous considérez ça comme une lettre particulière, comme un mouvement particulier, ou bien vous vous contenterez de répéter des formules générales, vive la révolution prolétarienne, vive le socialisme, ce qui est bien agréable en plus parce que tout le monde va être bientôt d'accord avec vous, mais qui ne mène pas très loin, parce que les gens sérieux qui vous écoutent diront, oui, ça c'est pas mal, mais il faut le faire. Alors c'est ça, c'est là que commence le problème. Qu'est-ce que tu proposes de faire? Le socialisme, la révolution, d'accord, comment? Bon. Ou bien donc vous resterez dans le cadre de formules générales de propagande, et qui peuvent même être d'ailleurs la propagande stéréotypée, s'il dit la JS répétant les bons vieux slogans, à une certaine époque c'est une chose, à une autre c'est une autre, y compris on peut faire, y compris du gouvernement ouvrier, une parfaite métaphysique, en faisant ça à propos de tout et de rien, jusqu'à ce que les gens puissent deviner à l'avance que vous allez dire gouvernement ouvrier et même le dire avant vous. Toute pensée stéréotypée qui répète les slogans généraux reste en réalité dans le cadre formel de la lutte particulière. Le seul moyen d'en sortir, c'est d'apprendre à voir dans cette lutte particulière, pour l'analyser, à partir de la lutte globale, de l'état du mouvement de la classe ouvrière pris dans son ensemble, à l'échelle nationale et internationale, et d'analyser le petit mouvement particulier, y compris une grève d'un amphi pour des étudiants ou un atelier pour des ouvriers, dans ce cadre global. C'est seulement comme ça, c'est pour ça que la politique marxiste n'est pas facile, et que ce que j'explique là, bien sûr, il faut le faire, il faut apprendre à le faire, il faut ce problème avant la séance, je crois. Cette méthode... Est-ce que vous m'entendez dans le fond? Bon, alors je vais essayer de continuer. Cette méthode qui réintègre le particulier dans le général comme expression de toutes les déterminations du général, c'est-à-dire de la lutte des classes mondiales, est la nôtre. Elle est la nôtre et elle ne peut qu'être la nôtre parce que ça n'a rigoureusement aucun sens de dire nous sommes dans l'époque des guerres et des révolutions, nous sommes dans la période de l'imminence de la révolution. Ou bien ça ne veut rien dire, ou bien ça veut dire qu'à partir d'une caractérisation de la période, et seulement à partir de cette caractérisation donc de la situation globale, nous abordons le problème particulier. Bien, j'ai été très long sur la dialectique, peut-être trop, mais ça c'est toujours un choix qu'il faut faire, et je suis résolu à faire à chaque session de l'école des choix différents pour ne pas raconter continuellement la même chose, ce qui... Pour vous, ça n'aurait pas d'importance si vous ne l'avez pas entendu, mais pour moi, ça aurait beaucoup d'importance de rabâcher. J'ai donc donné un certain nombre d'éléments qui sont clairs ou pas, vous me le direz. Pour aller plus loin, il y avait dans les anciens bulletins un certain nombre de livres recommandés. Je vous recommande avant tout l'Anti-During d'Engels, à l'heure actuelle épuisé, mais en réédition, et qu'on peut trouver chez des copains, et un certain nombre d'autres livres. Pour ceux qui veulent voir un peu plus clair dans la formation du marxisme à partir de la philosophie allemande, notamment la petite brochure d'Engels sur Ludwig Feuerbach, qui a l'avantage d'être simplement une petite brochure et qui est d'une clarté parfaite comme tout ce qu'Engels écrit, qui est limpide. C'est moins riche et moins complexe que ce qu'écrit Marx, mais c'est plus facile à lire. Nous sommes maintenant au point où nous pouvons revenir sur le problème dont je suis parti. Il y a des lois de la nature, il y a des lois de la société, peut-être, il y a sûrement des lois de la nature, donc nous en sommes, il y a peut-être des lois de la société. Est-ce que c'est rigoureusement identique? Il faut d'abord nous demander comment, après peut-être 4 milliards d'années d'évolution de la vie, puisque l'on considère aujourd'hui que l'écorce terrestre s'est formée, s'est solidifiée il y a 4 milliards et demi d'années, bien qu'aux dernières nouvelles, ce chiffre va peut-être augmenter un peu. On a découvert des roches qui seraient un peu plus anciennes. Enfin, en tout cas, ça ne dépasse pas 5 milliards. Et par contre, la vie a dû apparaître très rapidement, peut-être dans le premier milliard d'années, ou pas beaucoup plus. Elle a évolué très longuement de manière invisible et difficile à trouver des traces aujourd'hui encore parce qu'il Il s'agissait d'êtres microscopiques, de bactéries, d'algues microscopiques ou de choses de genre qui sont fort mal connues. Puis elle a évolué avec des fossiles et des animaux qui ont laissé des traces, même de grandes traces, comme vous savez si vous avez été voir le Diplodocus au muséum, activité recommandée à ceux qui débarquent à la gare d'Austerlitz d'un voyage fatigant et qui ont besoin de distraction. Et à travers des centaines de millions d'années, finalement l'humanité est apparue. Il y a, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a 5 millions d'années. Qu'est-ce qui l'a caractérisé? Eh bien, ce qui a caractérisé l'homme d'abord et avant tout, plus exactement, il s'agit de prédécesseurs de l'homme du point de vue biologique, assez différent. Tu peux pas baisser ça. Alors, s'il y a quelqu'un qui me connaît comme partisan de la défense de l'environnement, mais un ennemi de la science, alors ça m'étonne pas. Bon, qu'est-ce qui caractérise donc cette apparition de l'humanité, même s'il s'agit des australopithèques, c'est-à-dire d'êtres qui biologiquement n'appartenaient pas encore à notre espèce? Ce qui les caractérise d'abord, c'est qu'ils commencent à fabriquer des outils, et non pas comme un singe qui s'empare d'un bâton pour abattre un fruit dans l'arbre, mais comme une technique de production d'outils en pierre, qui va progresser peu à peu. Mais pas jusqu'au point d'avoir un micro qui marche. Mais je continue, j'espère. Et donc, non pas comme des singes qui ramassent un bâton pour abattre un fruit dans l'arbre, mais comme élaborant une technique de fabrication d'outils qui progresse très lentement, mais qui néanmoins se transmet de génération en génération, qui élabore par conséquent une culture, de telle sorte que le nouveau-né humain naît non pas seulement dans l'environnement naturel tel que le nouveau-né animal, mais dans un environnement qui est le produit, qui est déjà une certaine civilisation, une certaine culture, si limitée soit-elle. D'autre part, si l'on considère que les prétendus primitifs que nous pouvons rencontrer aujourd'hui ont eux aussi 5 millions d'années d'évolution de préhistoire derrière eux, exactement comme nous, on comprend qu'il n'y ait pas de primitifs, soit dit en passant. Bon, mais de toute façon, qu'il n'y ait pas de primitifs, parce que eux aussi, leur culture se limita-t-elle à la taille de la pierre, à la chasse et à la pêche, eux aussi, leur culture est le produit de millions d'années d'histoire, de millions d'années de progrès, dans laquelle chaque génération hérite des résultats acquis par le passé. La base de cet héritage, c'est le langage. L'homme parle. D'autres êtres vivants semblent être capables de parler et d'avoir un langage qui ne soit pas simplement quelques cris ou quelques signaux. Actuellement, vous lisez des livres qui vous racontent que tous les animaux de toutes sortes parlent et qu'on peut même parler avec eux. Ce qui est à mon avis un abus de langage, parce que, un abus du mot langage, parce que ce qui caractérise les langages humains, c'est d'être capable de transmettre non seulement les signaux relatifs à un fait particulier, mais des rapports entre ces faits, y compris des rapports complexes, et cela ne paraît pas exister ailleurs que chez l'homme, y compris chez les animaux qui auraient pu le développer, comme les dauphins par exemple, c'est-à-dire qu'il y avait le cerveau qu'il faut pour cela, mais qui sans doute étaient dans des conditions naturelles telles qu'ils n'ont pas été poussés à le développer parce que la satisfaction de leurs besoins était assurée automatiquement et sans aucun effort particulier, contrairement à ce qui était le cas de l'homme qui n'est pas armé pour satisfaire ses besoins, pour chasser, pour pêcher ou même pour collecter des graines, comme le sont beaucoup d'autres animaux, et qui doit donc élaborer élaborer des moyens artificiels. Le langage, comme vous le savez, est l'objet des plus grandes mystifications à l'heure actuelle, depuis que le structuralisme s'est emparé de la linguistique, et en a fait véritable mystification, puisque pour ces messieurs, de plus en plus, dans le langage, ça n'est pas ce que veut dire le langage, ce sont les mots et les signes étudiés en eux-mêmes, n'ayant d'ailleurs rigoureusement aucune signification. C'est la fameuse histoire du signifié et du signifiant. Le mot, il est le signifiant, il signifie quelque chose, mais on ne s'occupe pas du tout de savoir ce qu'il signifie, on ne s'occupe que de l'étude du langage comme une chose en soi, exactement comme si on ne le comprenait absolument pas. D'ailleurs, possible que ce soit le cas d'un certain nombre de ces messieurs. Et il y a un camarade qui prépare une étude sur la linguistique, le structuralisme, Chomsky et quelques autres choses, pour la vérité, pas pour ce prochain numéro, mais pour par la suite, et qui travaille sérieusement là-dessus. Le rapport entre le langage et la pensée est remarquablement défini dans la première œuvre où Marx et Engels définissent le matérialisme historique, c'est-à-dire l'idéologie allemande. Le langage, écrit-il, oui, il démontre d'abord que pour les idéalistes, une malédiction pèse sur l'esprit, celle d'être entaché d'une matière qui se présente ici sous forme de couches d'air agitées, de sons, en un mot, sous forme du langage. C'est exactement la linguistique structuraliste à l'envers. En effet, la conception des idéalistes, c'était que la pensée se trouve mal dans le langage. La pensée est pure, l'esprit, avec un grand E, de préférence celui de Dieu, mais à défaut celui des hommes, la pensée est pure, se souille, se déforme, s'affaiblit, se vulgarise en parlant. La pensée suprême pour les mystiques, c'est la pensée sans langage. Düring lui aussi avait trouvé ça, et comme lui fait remarquer Engels, ce qui démontre bien entendu que les plus grands penseurs sont les animaux, lesquels ne parlent pas. Il n'était pas au courant des découvertes sur les dauphins. Et le structuralisme a exactement renversé cela, mais pour dire la même chose. Il l'a renversé. C'est-à-dire que, voilà la même chose, mais à un niveau beaucoup plus bas. Parce que l'idéaliste philosophique classique, étudiant la pensée pure, donc de préférence sans langage, ou en abstraction du langage et assez loin, étudiant la pensée pure, conservait quand même un contenu qui était celui du stade atteint par les idées au moment où il s'exprimait. Le structuraliste, lui, se débarrasse au contraire de toute espèce d'idée et n'étudie plus que les rapports entre les mots, la structure du langage, indépendamment de toute signification attribuée à ces signes. Que de telles théories aient un sens en mathématiques et en physique sous la forme de l'informatique, c'est une chose, mais que les considérer comme exprimant toute la pluralité fondamentale toute la réalité fondamentale du langage humain, c'est une monstruosité qui aboutit par exemple à ces livres justement célèbres d'Althusser sur le capital de Marx, dans lequel vous apercevez avec stupeur au bout d'un certain temps que Althusser ne parle pas de la même chose que vous. Il a peut-être lu le capital et vous aussi, mais il ne parle pas de la même chose parce que moi quand je parle du capital, je parle de ce que dit Marx, des idées qu'il développe, des théories qu'il formule, des relations qu'il établit. Tandis que lui, il parle du langage du capital. Le langage du capital, la structure du langage du capital, voilà ce qu'étudie Althusser. Je veux dire qu'à ce moment, j'ai fermé le livre et j'ai haussé les épaules. J'ai pensé que je pouvais trouver une meilleure occupation de mon temps, sauf s'il était nécessaire de réfuter Althusser. On me passe d'ailleurs un papier où un camarade demande la différence entre structuralisme et dialectique. Eh bien, précisément, le structuralisme est essentiellement conservateur. Il étudie des structures qui pour lui sont donnés à un moment donné du temps, ce qu'il appelle synchronique, à un moment donné du temps, il étudie la structure d'une langue. Et puis il promet toujours d'étudier son évolution, mais il ne le fait jamais. C'est-à-dire qu'il dit, il y a d'autre part le diachronisme, et puis c'est tout, il n'en parle plus. Et il étudie avec prédilection la langue comme un système de rapport entre des signes figés une fois pour toutes à un moment donné. C'est-à-dire qu'il en fait un objet de conservation, se dressant d'autre part au-dessus de l'histoire de l'humanité, dont elle est quand même le produit, parce que même un structuraliste, dans ses moments de calme réflexion, devrait quand même admettre que le langage n'est pas directement tombé du ciel des structures sur la terre, sur la terre où est l'humanité vulgaire, et a été produit par l'humanité au cours de son histoire ou de sa préhistoire. C'est ce que savait déjà Marx, et je reprends sa critique. Le langage est aussi vieux que la conscience. Le langage est la conscience réelle, pratique, existant aussi pour d'autres hommes, existant donc alors seulement pour moi-même aussi, et tout comme la conscience, le langage n'apparaît qu'avec le besoin, la nécessité des relations du commerce avec d'autres hommes. Les commerces, c'est compris ici dans le sens de relations et non pas dans le sens d'économie marchande. Là où existe un rapport, il existe pour moi. L'animal n'est en rapport avec rien, ne connaît somme toute aucun rapport. Pour l'animal, ses rapports avec les autres n'existent pas en tant que rapport. Marx comprend donc bien le langage humain comme étant se caractérisant essentiellement par le fait qu'il établit des rapports entre objets, même des rapports complexes, et non pas simplement qu'il désigne un objet par un signe, par un son. Là où il existe un rapport, il existe pour moi. L'animal n'est en rapport avec rien, ne connaît somme toute aucun rapport. La conscience est donc d'emblée un produit social et le demeure aussi longtemps qu'il existe des hommes. Telle est l'idée fondamentale de la définition de la compréhension du langage et de la conscience qui, pour Marx, le langage n'est que la forme de la conscience et en même temps cette forme d'ailleurs modèle son contenu. Nous ne pouvons exprimer nos idées qu'avec la langue dont nous disposons, qui est un instrument plus ou moins imparfait et qui, quelquefois, rend difficile cette expression, comme le savent en tout cas ceux qui essayent de traduire quelques textes dialectiques allemands en français et qui se sont heurtés à cette difficulté que le français est beaucoup moins propre à les exprimer que l'allemand, qui possède, pour montrer son caractère dialectique, un mot justement célèbre, lequel veut dire à la fois conserver, détruire et dépasser, c'est-à-dire exprime ce bon dialectique qui passe de A à non-A, puis à un terme supérieur qui les retrouve tous les deux, en les niant tous les deux et en les dépassant tous les deux. Autrement dit, le passage à un stade supérieur de l'évolution. Il est évident que la possession d'un mot unique pour dire tout cela est quelque chose qui rend particulièrement l'allemand propre à exprimer les idées dialectiques et qui, en français, pose pas mal de problèmes. L'humanité se caractérise donc par le fait que, dès le moment où elle a créé un langage, elle se sépare d'une certaine manière de la nature, tout en y restant profondément intégrée, elle se pose en face d'elle et elle commence à avoir des lois de sa propre évolution qui ne sont plus directement subordonnées aux lois naturelles biologiques. Elle vit de plus en plus dans un milieu qu'elle a créé elle-même, et par milieu, il faut entendre non seulement les objets, les outils qu'elle fabrique, mais aussi les idées qu'elle a élaborées au cours même de son activité pratique et des besoins de cette activité pratique, et qui crée pour le nouveau-né un milieu dans lequel il se trouve dès l'instant où il commence à entendre des sons que d'abord il ne comprend pas et qu'ensuite il va comprendre, héritant ainsi de tout l'héritage culturel de l'humanité qui lui est en quelque sorte prédestiné par l'histoire humaine. Dès ce moment, les lois de l'histoire et même de la préhistoire humaine se séparent des lois de la nature et deviennent, obéissent à une logique propre. L'histoire proprement dite commence avec celle de la division du travail. Tant que l'outillage reste primitif, et pourtant on peut décrire l'immense évolution qui va des premiers tailleurs de pierre jusqu'à nos ancêtres, non pas les Gaulois mais les Magdaléniens il y a 15 000 ans, qui vivaient en France par exemple il y a 15 000 ans et ornaient les cavernes de Lascaux, d'Altamira ou autres. L'évolution est représentée par le fait d'un progrès extraordinaire dans la technique de la taille de la pierre. Là où les premiers savaient seulement retoucher vaguement un gros morceau de pierre, les derniers savent tirer du même gros morceau de pierre des dizaines, des milliers d'outils différents, différenciés, et les utiliser chacun à des tâches et des besoins différents, tout en les retaillant en cas de besoin. Mais le changement le plus fondamental va se produire ensuite. Jusque-là, l'humanité s'est contentée de récolter dans la nature de quoi satisfaire ses besoins. Elle pêche, elle récolte des graines et elle chasse beaucoup moins d'ailleurs qu'on le croyait, mais enfin pas mal. Enfin, je veux dire, par là, la chasse n'était pas l'activité unique comme on le croyait il y a un certain temps, mais la récolte de graines sauvages prenait, et de végétaux sauvages prenait une grande place. Elle va passer ensuite au stade où elle transforme directement le milieu pour l'approprier à ses besoins, c'est le stade de l'agriculture et de l'élevage qui lui est lié, parce qu'on ne peut élever des troupeaux importants que si on possède des réserves pour les nourrir pendant l'hiver, au moins dans le climat tempéré. Dans ces conditions, ce nouveau stade qu'est-ce qu'il va avoir comme très saillant et déterminant? Premièrement, il va aboutir à la possibilité d'avoir des réserves importantes de biens, de nourriture notamment. Les céréales permettent de constituer de telles réserves. Alors que jusque-là, avec la chasse ou la pêche ou la collecte de graines, il n'y avait pratiquement pas de réserves possibles. Quand on en avait, il fallait les consommer tout de suite, et si on n'avait pas, on s'en passait jusqu'à ce qu'on en ait. Ce qui a d'ailleurs pour conséquence que l'humanité actuelle a été entraînée par la biologie, enfin sa biologie a été entraînée à supporter relativement facilement de longues périodes d'inanition complète, de jeûne complet, si l'homme est en bonne santé, alors qu'il meurt beaucoup plus vite quand il mange quand même, mais qu'il mange seulement une catégorie d'aliments, comme ça se produit actuellement dans les pays arriérés, comme un produit du capitalisme dans sa décomposition, où tel pays arriéré possède uniquement une céréale ou une catégorie d'aliments dont les gens, dans les périodes de famine, se nourrissent exclusivement, et vous avez alors des catastrophes du genre de ce qu'on appelle le kwashiorkor, comme en sont atteints les enfants, par exemple au Bengale dans la dernière période, où ils meurent beaucoup plus vite parce qu'ils absorbent une seule substance qui détruit complètement l'équilibre entre les différentes catégories d'aliments indispensables. De toute façon donc, jusqu'à l'agriculture, et il ne faut pas s'imaginer que l'agriculture a été introduite d'un seul coup de tonnerre, on parlait autrefois de révolution néolithique, il s'est étendu des milliers d'années où l'agriculture s'introduisait peu à peu dans certains secteurs, continuait à être ignorée dans d'autres, régressait dans l'un, etc. Mais vers l'an moins 8000, l'agriculture et l'élevage s'établissaient généralement partout où l'humanité existait, ou en tout cas dans la plupart des endroits. Et la conséquence, la différence décisive, c'est qu'il allait être possible de constituer d'importantes réserves, c'est qu'on ne consommerait plus tout ce qu'on produisait au moment même où on le produit ou tout de suite après, c'est que le produit d'un travailleur, d'un homme, à ce moment-là tout le monde travaillait, et encore, pas pour très longtemps, le produit du travail d'un homme va se diviser en deux parties, le produit nécessaire qu'il consomme immédiatement parce que c'est nécessaire pour entretenir sa vie, et le surproduit, le produit supplémentaire qui est mis en réserve. L'existence de cette réserve entraîne la possibilité que certains hommes ne travaillent pas et vivent du travail des autres, et qu'il s'instaure une division du travail, d'abord la plus profonde de toutes et la première de toutes à avoir existé, entre travail manuel et travail intellectuel. Les uns travaillent les champs, c'est d'ailleurs les femmes généralement à cette époque, ou chassent, c'est les hommes, ou s'occupent du bétail. Les autres pensent, ce sont les prêtres, ils dirigent, ce sont les prêtres, les rois, les chefs de guerre, et l'instauration de cette division du travail entraîne en germe déjà la possibilité d'une division en classes, c'est-à-dire d'une classe qui produit et ne consomme pas tout ce qu'elle produit, et d'autres, d'une ou plusieurs autres classes qui ne produisent pas et vivent du surproduit du travail des producteurs, autrement dit de l'exploitation de ce travail. Cette division en classes était à la fois une nécessité absolue pour que le progrès technique continue, c'est-à-dire pour que la productivité du travail continue à se développer, et le développement de la productivité du travail était en même temps la base de tout développement de civilisation possible, et en même temps il a dû apparaître à ceux qui l'ont vécu, pour la grande masse de la population jetée dans différentes formes d'esclavage, comme un mal, et même un mal terrible. Mais ici encore, Hegel a jeté le regard le plus profond sur l'histoire quand il a dit « Les choses ne progressent jamais que par leur mauvais côté ». Effectivement, le bon côté est satisfait. Le bon côté est conservateur, puisqu'il est bon et qu'il est donc bien. C'est-à-dire qu'il est en harmonie avec la situation. Le mauvais côté, lui, n'est pas satisfait. Il est mal, il est le mal et il est mal, comme le prolétariat dans cette société, et par là même il est amené à remettre en question l'ordre existant, lorsque les conditions historiques en sont réalisées. Le schéma général qu'a développé Marx, jusque-là, tout le monde, personne n'expliquait l'histoire. L'histoire de l'humanité apparaissait soit comme le produit de la volonté de Dieu, lisez le discours sur l'histoire universelle de Bossuet, qui est un des ouvrages les plus comiques que je connaisse, et qui démontre comment le vieux Yahvé ayant créé le monde il y a 5400 ans, d'ailleurs si vous avez vu la création du monde, enfin la reproduction de la création du monde de Michel-Ange, et la tête qu'il fait au moment où il crée la Terre, le monde c'était la Terre à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il avait vraiment l'air de soupçonner tous les emmerdements que ça allait lui apporter dans la suite. C'est vraiment extraordinaire. Enfin, de toute façon, donc, Bossuet a créé le monde il y a 5000... pas Bossuet. Créé le monde il y a 5400 ans. Et puis, tous les événements qui se sont déroulés en fonction de sa volonté. C'est-à-dire que, par exemple, il élevait les Juifs, lorsqu'ils étaient vertueux, à une situation d'empire. Lorsqu'ils n'étaient plus vertueux pour les châtier, il suscitait de grands empires comme Babylone et les autres pour réduire les Juifs en esclavage, et ainsi de suite. Il est évident que cette logique, quand on pense qu'il y a seulement 3 siècles, on a pu prendre ce genre de construction au sérieux, et que beaucoup de gens la prennent encore au sérieux aujourd'hui, à savoir que les empires se sont élevés ou se sont effondrés simplement parce que Dieu avait des visées sur le petit peuple juif à l'époque et ensuite sur d'autres, c'est vraiment, on a du mal à... Enfin, si on ne comprenait pas que selon l'expression de Trotsky, la sottise est profonde lorsqu'elle a des racines sociales, si on ne comprenait pas que ce n'est pas par des arguments logiques qu'on réfute ce genre de sottise, parce qu'ils expriment des intérêts de classe déterminés, c'est ça qui fait leur force et leur puissance, c'est évident qu'on ne pourrait que hausser les épaules. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les adversaires de la conception de Bossuet, les philosophes français matérialistes du XVIIIe siècle. Pour eux, ce qui n'allait pas dans le passé obscur et ténébreux et barbare, c'était l'ignorance. Vienne la lumière, et ce siècle s'appelle siècle des Lumières, vienne la raison, vienne la connaissance, et les ténèbres se dissiperont, et l'humanité qui vivait d'une manière absurde, en proie à toutes sortes de superstitions grossières, organisera une société rationnelle, raisonnable et humaine lorsqu'elle sera en possession des lumières de la raison. Cette conception, comme la première, a ceci de commun qu'elle est idéaliste, c'est-à-dire que pour elle, ce sont les idées qui mènent le monde, elle est néanmoins incontestablement beaucoup plus susceptible de permettre le progrès. Et elle l'a permis pendant toute une étape. Néanmoins, elle n'explique pas la chose suivante. Pourquoi est-ce que c'est précisément au XVIIIe siècle que la lumière est apparue et a dissipé les ténèbres? Et puis en plus, nous savons aujourd'hui qu'après le XVIIIe, il y a eu le XIXe et le XXe, et que même si les ténèbres sont de plus en plus dissipées, c'est-à-dire si la masse des connaissances humaines s'est incomparablement accrue, il n'en reste pas moins vrai que le monde continue à être sauvage, barbare, inhumain et absurde. Il n'évolue pas conformément à des lois rationnelles, à un plan consciemment élaboré ou à quoi que ce soit de ce genre. Dans ces conditions, la conception des philosophes idéalistes et même des matérialistes, parce qu'ils étaient matérialistes seulement pour la nature mais pas pour l'histoire, parce que pour l'histoire ils n'arrivaient pas à passer au stade où les idées elles-mêmes ne sont pas un monde en soi, donc elle se heurte à ce genre de questions. Pourquoi est-ce que c'est au XVIIIe siècle qu'apparaît brusquement telle idée, et non pas n'importe quand? Pourquoi est-ce que le socialisme n'a pas pu être réalisé par Platon ou par tel autre théoricien d'un socialisme utopique il y a 2000 et des années? Avec Marx, la base, la méthode de pensée est retournée. À la base, il y a le fait qu'avant de créer des idées, ou avant de discuter d'idées ou de suivre certaines idées, les hommes commencent par produire les biens qui sont nécessaires à la satisfaction de leurs besoins matériels. Ils commencent par mener une vie matérielle. Ils produisent, et en produisant, comme le rappelle Marx à propos du langage, ils nouent entre eux des rapports dans la production. Ces rapports sont déterminés d'abord par le développement de la technique, lequel entraîne lui-même un développement plus ou moins poussé de la division du travail. À un certain stade de développement de la technique, Il y a des marins, il y a des bergers, il y a des artisans de différentes sortes, des forgerons, etc. À un stade supérieur du développement de la technique, il y a une division du travail beaucoup plus poussée. Il y a des travaux complexes qu'on n'aurait même pas pu imaginer auparavant, comme disons le métier de programmateur ou celui de théoricien de l'électronique ou bien autre chose de genre, ou de chimiste. Du développement de la technique résulte un développement de la division du travail, mais la division du travail qui est apparue avant les classes a donné naissance aux classes, et par là même, l'existence des classes plus fondamentales a remodelé tout le reste. Pourquoi est-ce que l'existence des classes est plus fondamentale? Parce que, pour l'évolution de la République romaine, et ce sera précisément le fait fondamental de l'histoire romaine, la lutte contre la petite et la grande propriété terrienne. Donc, ce qui devient déterminant pour les rapports entre hommes dans la production, c'est la propriété ou la non-propriété des moyens de production. Au cours de la production matérielle de leur existence, sur la base d'un développement de la technique héritée de tout le passé, les hommes nouent certains rapports, mais ces rapports, ils ne les nouent pas librement et volontairement, ils sont préfabriqués pour eux par le tout le passé de la société. Dans la société où nous sommes, ces rapports, c'est le salariat. C'est-à-dire qu'à moins d'être capitaliste, vous ne pouvez satisfaire vos besoins qu'en vendant votre force de travail contre un salaire. Vous n'avez pas le choix. L'apparence du libre choix que donne cette société, on est libre de prendre tel emploi ou de ne pas le prendre, etc., n'est naturellement qu'une apparence. Et ces rapports sont préfabriqués par la société à l'avance. Nous commençons maintenant à pressentir quelle est la nature des lois de la société. Ces lois, d'une part, ont ceci commun avec les lois de la nature, qu'il ne dépend pas de nous de la modifier à volonté. Par exemple, la loi de l'apesanteur, si vous vous figurez que vous pouvez sauter par la fenêtre et voler dans l'air grâce à une décision de votre libre volonté, vous aurez certainement une réfutation radicale qui vous sera opposée. Que veut dire la phrase fameuse d'Engels? Un camarade me posait la question, c'est d'Engels, c'est pas de Marx, je crois d'ailleurs, mais enfin peu importe, Marx a pu le dire aussi. On ne peut dominer la nécessité qu'en la connaissant et par la même en lui obéissant pour apprendre à la maîtriser. Mais elle veut dire cette chose très simple, que nous sommes les esclaves aveugles et inconscients des lois de la nature tant que nous ne les connaissons pas. La loi de la pesanteur, par exemple, que quand nous les connaissons, nous pouvons les utiliser pour en faire ce que nous voulons, et y compris voler dans l'air avec des avions, en dépit de la pesanteur et contre elle. Et même presque, c'est vraiment pas chance, la force musculaire humaine est juste un tout petit peu en dessous de ce qu'il faudrait pour pouvoir voler avec des ailes artificielles. On le sait aujourd'hui, beaucoup de tentatives ont été faites, mais elles finissent souvent mal. Mais il y a des gens qui arrivent par la connaissance des courants aériens et un entraînement à un vol mécanique à réussir longtemps. En général, ils finissent par se tuer quand même, parce que c'est trop dangereux, parce que c'est juste à la limite. Il faudrait que l'homme ait une force musculaire à peu près une fois et demie à deux fois plus forte et il pourrait voler des ailes artificielles qu'il fabriquerait. Ça n'est pas le cas, mais il peut par contre fabriquer des machines volantes quand il connaît à fond les lois de la pesanteur. À fond, c'est bien exagéré, mais quand il connaît l'essentiel qui est rigoureusement nécessaire. De la même manière, la gravitation terrestre s'est imposée à tous les hommes jusqu'à il y a seulement une quinzaine d'années, et aujourd'hui des hommes ont pu échapper à la gravitation terrestre parce que les lois de la gravitation de la mécanique céleste étaient parfaitement connues et parce que le progrès de la technique avait élaboré un moteur qui permettait, en utilisant ces lois, en obéissant à la nécessité, de la dominer. Dominer la nécessité, c'est la rendre consciente. C'est en prendre conscience, c'est connaître les lois et les utiliser. Et finalement, l'objectif du socialisme, c'est que l'humanité qui maîtrise la nature maîtrise son propre développement historique, le rendre pleinement conscient et planifié. C'est là le but même du socialisme et son objectif ultime. Bon, donc, Les lois de la nature, les lois de la société nous apparaissent d'une part comme une contrainte extérieure aussi rigoureuse que celle de la nature. Si nous voulons sortir par la fenêtre, nous tombons. Si nous voulons vivre sans travailler, nous mourons de faim généralement, nous devenons clochards, c'est-à-dire asociaux, hippies, etc., mais extérieurs au fonctionnement de la société et de la civilisation, ce qui peut toujours se faire pour un certain temps dans une société qui comporte toutes sortes de mailles, de ports en quelque sorte, où on peut le faire, mais à des limites étroites. En tout cas, il ne dépend pas de nous d'échapper beaucoup plus généralement au fait que pour satisfaire les besoins, dans cette société, il faut disposer d'un objet appelé argent et de certaines quantités de cet argent pour se procurer n'importe quoi. Ceci nous apparaît comme une loi, exactement comme la loi de la gravitation universelle ou celle des climats et de leur succession inéluctable de l'été à l'hiver et de l'hiver à l'été, etc. Mais en même temps, il y a une différence fondamentale. La succession des saisons existait bien avant l'humanité. La loi de la gravitation universelle aussi. Par contre, la loi du salariat n'existait pas avant l'humanité et même avant la société capitaliste. Autrement dit, les lois de la société humaine, qui sont d'une part des contraintes qui s'imposent aux individus d'une manière brutale et absolue, sont d'autre part des produits de l'activité humaine dans l'histoire. Elles sont apparues à un stade déterminé dans l'histoire, il n'y a pas toujours eu de salariat, il n'y a même pas toujours eu de monnaie, et elles disparaîtront à un stade déterminé. Nous pouvons alors donner maintenant le schéma le plus général que donne le matérialisme historique du développement de l'histoire, en n'oubliant pas qu'il s'agit d'un schéma, c'est-à-dire de quelque chose qui est effectivement extrêmement schématique, mais qui néanmoins contient l'essentiel, sur la base d'un développement donné de la technique et par conséquent du mode technique de production qui en résulte et de la division du travail, s'instaure une division en classes déterminées de la société, la féodalité par exemple ou le capitalisme ou bien d'autres avant, d'une division en classes déterminées de la société dans laquelle les rapports de production revêtent un caractère déterminé. Les rapports sociaux de production sont ceux que nous les hommes, entre eux, et qui n'ont pas le choix de ne pas nouer, qui sont imposés à eux par la société, dans le cadre de leur activité productive, productrice des biens nécessaires à satisfaire leurs besoins. C'est ce qu'on appelle rapport de production ou rapports sociaux de production, puisque ce sont des rapports dans la société et non pas des rapports librement noués entre individus humains, s'affrontant comme personne humaine, ayant des rapports entre eux. Ça existera dans la société communiste avancée, ça ne peut pas exister dans cette société où, sur la base des rapports de production, d'un mode de production déterminé, le capitalisme aujourd'hui, se développe tout un système de rapports de toutes sortes, idéologiques, moraux, sexuels, etc., qui sont tous remodelés et préfabriqués par le mode de production. Il suffit de penser à ce qui concerne les rapports sexuels qui pourtant ont des racines les plus profondes dans la biologie, que néanmoins, l'argent joue un rôle essentiel dans les rapports sexuels de la société capitaliste, qu'il s'agisse de ceux de la famille traditionnelle, de ceux de l'érotisme le plus échevelé d'ailleurs, où vous apercevez que les communautés où l'on vit dans une sexualité libre à une douzaine de personnes se dissolvent en général lorsqu'il surgit des conflits d'argent, c'est-à-dire que certains gagnent plus que d'autres, et que de ce point de vue, les autres finissent, et que ceux-là finissent par en avoir assez d'entretenir les autres. C'est ce qui arrive, ils ne s'en vendent pas, mais c'est incontestablement ce qui arrive presque toujours dans ce genre d'histoire, parce que les rapports sociaux sont plus forts que toute autre conception que peuvent avoir les individus qui les subissent, et qu'il ne peut pas y avoir d'émancipation, de révolution sexuelle, sans que la révolution socialiste ait d'abord vaincu, il ne peut pas y en avoir. On ne peut que refaire ce qui a déjà été fait d'ailleurs des milliers de fois dans le passé, parce que ceux qui croient qu'ils innovent de ce point de vue vivent dans une illusion extraordinaire, et le refaire de l'extérieur en quelque sorte, en ce sens que l'essence même de son propre individu échappe à chacun de nous dans une société pour laquelle Voilà le langage, encore une fois, comme on le dit en langage américain. Qu'est-ce qu'un homme? Eh bien, il vaut $1,000,000. C'est-à-dire qu'il possède $1,000,000. Pour les Américains, le langage dit clairement que l'essence d'un homme, c'est l'argent qu'il possède. Et dans cette société, c'est vrai. On ne peut y échapper à cette aliénation, c'est-à-dire au fait que notre essence nous échappe pour apparaître comme quelque chose d'ennemi et d'hostile en face de nous. On ne peut y échapper que par la lutte consciente, c'est-à-dire organisée pour la révolution socialiste et dans le cadre de cette lutte. Les hommes de la communiste, évidemment, y échapperont par droit d'héritage dès leur naissance dans une société qui ne comprendra même plus ce que ça pouvait vouloir dire qu'il fasse passer par le détour de pièces de monnaie ou de billets ou de morceaux de papier pour satisfaire ses besoins. Sur la base donc d'un développement déterminé de la technique, apparaît un mode de production déterminé avec sa division en classes, etc. Tant que les forces productives peuvent se développer dans le cadre de ces rapports de production, tant que ces rapports en permettent le développement, tant qu'ils ne sont pas trop étriqués pour cela, ce mode de production connaît des crises et des conflits, mais pas de crise fondamentale, et il continue à exister, et il n'est contesté par personne. Les idées, en même temps, dans le même mouvement, où l'humanité crée des objets matériels pour satisfaire des besoins, ses besoins, dans le même mouvement où elle crée ses objets matériels dans des rapports déterminés tels que celui du seigneur et du serf ou celui du patron et du salarié, dans le même mouvement, elle crée des idées, des notions, des concepts, des idéologies, des philosophies qui expriment ces rapports, qui leur donnent une signification consciente, qui exprime ses rapports dans la conscience des hommes qui les vivent, et qui, comme tels, les exprime nécessairement de façon déformée, fausse, parce qu'il les présente comme éternels. Une civilisation ne sait pas qu'elle doit mourir. Elle se considère comme éternelle. Les hommes du XIIIe siècle ne concevaient pas qu'il puisse jamais y avoir une situation autre que celle de Dieu au ciel entouré de ses archanges, de ses anges et de ses sous-anges, il y avait toute une hiérarchie compliquée. On en créait un nouvel archange en cas de besoin, comme Michel qui est apparu pour les besoins de la cause, je ne sais plus exactement quand. Et sur la terre, exactement la même chose, le roi, le duc, le comte, le baron, je ne sais plus très bien quelle est la hiérarchie, le vidame, ce que vous voudrez. J'ai toujours trouvé ça très drôle d'être vidame, moi, je ne crois pas que ça existait. D'ailleurs, il y en a encore, mais ils ne s'en rendent plus, puisqu'ils ont conservé leur titre. Enfin, de toute façon, ils ne concevaient même pas qu'il puisse y avoir autre chose que ce monde où régulièrement, de temps à autre, intervenait la peste détruisant les trois quarts de la population, les trois quarts. La peste noire au Moyen-Âge, des épidémies liquidèrent en quelques années les trois quarts ou les quatre cinquièmes de la population de l'Europe sans que personne n'y puisse rien. Qu'il puisse y avoir un autre monde que celui-là, il ne concevait absolument pas. Quand Saint-Just s'est écrié « Le bonheur est une idée nouvelle en Europe », effectivement, jusque-là, personne n'avait jamais pensé qu'il puisse être normal que les hommes soient heureux, étant donné que Dieu ne le voulait pas, il voulait que dans l'autre monde, ils en soient récompensés. Mais le Dieu en question était exactement le produit des rapports existants. Seigneur jaloux, seigneur terrible, bourreau, tortionnaire, mais effectivement, oui. Oui, parce que c'était l'explication du monde qu'on vivait, l'explication étant l'autre monde où on serait récompensé. Le christianisme, c'est sa période de gloire, c'est sa période suprême, c'est-à-dire la période de la nuit du Moyen-Âge. On en déplaise à Maurice Thorez, qui prétend que ce n'était pas une nuit avec tous les calotins de la création. C'est une nuit, c'est une période de sommeil de la pensée, c'est une période de destruction de toutes les valeurs qui avaient été élaborées dans les cités grecques, par exemple, une période où personne ne conçoit que ça puisse être autrement, de même qu'à l'époque classique de l'esclavage, personne, même les esclaves, certains d'entre eux, affranchis par leur maître, ont laissé œuvres philosophiques, comme c'est le cas d'Épictète, d'Épicure, de Démocrite et de plusieurs autres, d'ailleurs, les matérialistes, dont nous ne possédons pas les œuvres parce que les chrétiens les ont détruites, nous savons ce qu'ils ont dit ou pensé, que parce que dans les auteurs chrétiens, on les réfute et alors on les cite, c'est tout ce qui nous reste d'eux. Ceux-là étaient des esclaves, et ceux-là n'ont jamais mis dans leur œuvre en cause l'esclavage en général. Parce qu'ils étaient bien obligés de conclure, comme l'avait déjà fait avant eux Aristote ou Platon, que sans l'esclavage, il n'y aurait pas la possibilité que les hommes libres se livrent à l'activité de la spéculation philosophique, c'était impossible. Effectivement, le développement des forces productives ne le permettait pas, et il n'y avait donc aucune issue autre à ce moment-là. Les idées dominantes d'une époque sont toujours celles de la classe dominante, parce que ces idées sont produites dans le cadre même du mode de production, comme des idées recouvrant les rapports réels et les justifiant, comme une idéologie par conséquent qui travestit la nature de ces rapports réels, et beaucoup plus encore dans le capitalisme que dans toutes les sociétés précédentes, parce que cet argument, il faut bien qu'il y ait des esclaves si on veut que les hommes qu'il y ait des penseurs libres, c'était un argument rationnel, c'était pas un argument de mensonge ou de camouflage disant l'esclavage n'est pas l'esclavage, alors que dans la société capitaliste, les rapports capitalistes nous disent, nous hurlent, tout le monde est libre. Le patron et l'ouvrier sont égaux. Ils nouent entre eux un contrat libre entre, comme le dit le langage juridique, acheteur de travail et vendeur de travail. Comme donneur de travail et fournisseur de travail. Je ne sais plus quel terme exact je cherchais en anglais. Bon, c'est un accord libre. Cette société ment sur elle-même, son idéologie est menteuse plus qu'aucune autre. Et elle engendre continuellement des variétés de cette idéologie lorsque les précédentes sont périmées, toujours pour justifier les rapports existants dont le type même, encore une fois, est l'autogestion et ce qu'on pourrait appeler le socialisme de l'entreprise, c'est-à-dire la croyance que la société capitaliste n'est pas un tout, que le rapport entre patron et salarié n'est pas le produit du marché mondial, mais seulement le produit de ce qui se passe dans l'entreprise, et que dans le cadre de l'entreprise, on peut donc les modifier de façon radicale. Nous en arrivons maintenant au fait que les forces productives se développent très lentement dans les époques antérieures au capitalisme, beaucoup plus vite sous le capitalisme, et qu'elles atteignent alors un stade de développement où elles entrent en contradiction. Vous voyez que c'est pas pour rien que j'ai parlé de dialectique, parce que force productive et rapport de production et de propriété, et finalement distribution des produits, parce qu'il est évident qu'il y a la possibilité de consommer plus ou moins est assez liée à la position de classe qu'on occupe. Tout cela forme une totalité, une unité, ce ne sont pas des éléments qu'on peut séparer et mettre dans des boîtes les uns à côté des autres, parce que les forces productives ne sont pas que des objets matériels, parce que la principale force productive, c'est l'homme qui met en marche cet outillage, c'est-à-dire ses connaissances, sa culture. Ils forment une unité, mais cette unité est contradictoire. Les forces productives se développent dans le cadre du mode de production, jusqu'au point où ils se heurtent à ce mode de production qui est désormais trop étroit pour les contenir. Le mode de production de l'ancien régime est alors périmé parce que, avec toutes les limitations qu'il met à l'activité industrielle, le fait qu'on ne peut exercer un métier que si on appartient à la corporation correspondante et qui a reçu privilège du roi, le fait qu'on ne peut exercer tel commerce qu'avec une autorisation, le fait que des douanes intérieures à chaque pays entravent le commerce, etc., etc., se heurtent aux besoins du développement des forces productives qui exigent l'unification du marché national pour fournir un débouché suffisant aux marchandises que la manufacture commence à produire en quantité de plus en plus grande. Les forces productives se heurtent au rapport de production, au mode de production, et la société entre alors dans une période de crise révolutionnaire, laquelle peut s'achever par une décadence générale de la civilisation, comme ça a été le cas lorsque le mode de production fondé sur l'esclavage s'est trouvé déchiré de contradictions internes à la fin de l'Empire romain, en particulier du fait de certains progrès techniques réalisés dans l'agriculture. Il peut donc, la société peut entrer en décadence, ou bien il existe dans cette société, dans la société ancienne, prise de révolution, une classe qui peut conquérir le pouvoir et promouvoir avec elle un nouveau mode de production capable d'assurer le développement des forces productives, et après une période de crise révolutionnaire plus ou moins longue, qui pour le passage du féodalisme à la bourgeoisie dure au moins du XIIIe siècle jusqu'au XIXe et même jusqu'au XXe, on peut dire, puisque l'ancien régime subsistait sous la forme de la grande propriété terrienne en Allemagne orientale jusqu'à 1945, où les Junkers ont été éliminés par l'occupation russe, pour ne prendre que cet exemple, donc qui peut s'étendre sur de nombreux siècles, et à l'issue duquel une nouvelle classe prend la direction de la société, promouvant avec elle un nouveau mode de production dans le cadre duquel elle est classe dirigeante. Telle est la conception générale, schématique, encore une fois, très schématique, mais si on ne voulait pas être schématique, alors à ce moment-là, il faudrait faire effectivement l'histoire des sociétés humaines, du matérialisme historique. Notre époque se caractérise par le fait que le capitalisme, que les forces productives ont atteint sous le capitalisme un développement sans précédent, et que dans le cadre même de la dégénérescence du capitalisme, où les forces productives ne se développent plus en tant qu'accroissement de la capacité de l'homme de satisfaire ses besoins, dont le développement et progrès de la civilisation, la technique et la science ont continué à progresser à un rythme accéléré, créant toute une série de potentiels techniques et scientifiques inemployés pour les besoins des hommes et employés exclusivement pour la destruction. Les plus grandes découvertes de la technique au cours des dernières dizaines d'années n'ont été employées pratiquement que par les militaires et la technique spatiale, comme les applications massives de l'électronique, de l'automation notamment, qui permettrait aisément de transformer toutes les grandes usines en machines automatiques surveillées par quelques techniciens, les chaînes de production disparaissant pour faire place à des machines. Mais le capitalisme ne peut pas le faire parce qu'un tel développement des forces productives supprimerait la source même du profit qui est la raison d'être et le moteur du capitalisme, et la bourgeoisie n'est pas disposée à scier l'arbre à scier la branche sur laquelle elle est assise, même si l'arbre est ébranlé par le tremblement de terre. Elle ne fait pas cela, elle ne le fera pas. La bourgeoisie est de ces morts qu'il faut qu'on tue. La bourgeoisie ne cédera pas le pouvoir tant que le prolétariat ne la renversera pas. Elle trouvera toujours une solution, mais cette solution sera de plus en plus réactionnaire. Le résultat, c'est que nous assistons à une société où, d'une part, la science et la technique ont atteint un niveau tel qu'aisément la totalité des besoins des 4 milliards d'hommes qu'il y a aujourd'hui, ou 3 milliards et demi, et même de 10 milliards, pourrait être satisfaite si l'ensemble de la technique et de la science était réorganisé à l'échelle mondiale selon un plan. Un gouvernement ouvrier en France aujourd'hui, par exemple, du jour au lendemain, même sans développer les forces productives, mais récupérerait la quantité prodigieuse gaspillée par le capitalisme. Discutez avec n'importe quel technicien dans n'importe quel domaine, mais il va vous révéler que le gaspillage atteint des proportions inouïes, incroyables, le gaspillage. On emploie systématiquement, par exemple, actuellement en France, au ministère de l'équipement, des ingénieurs de très haute qualification, sortis des ponts et chaussées, c'est-à-dire de la botte de l'X. On n'y emploie rien faire. Et on ne veut pas qu'ils fassent quelque chose. Je donne cet exemple parce qu'on vient de me le raconter. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent quelque chose? Parce qu'ils ont élaboré un certain appareil de contrôle d'État, de la construction dans le bâtiment, de la qualité des immeubles, etc. Bon, mais il ne faut pas qu'ils mettent leur nez là-dedans. Il ne faut surtout pas qu'ils mettent leur nez là-dedans. Qu'est-ce qu'ils deviendront les promoteurs? Donc, on leur dit, ne faites rien. Depuis le début du régime de Gaulle, de plus en plus, on refuse de les faire travailler sérieusement. Des économistes du ministère de l'Équipement ne peuvent pas étudier le profit dans le bâtiment, c'est clair. Ou dans n'importe quelle autre branche, d'ailleurs. Il ne faut surtout pas qu'ils l'étudient. S'ils publiaient des études, même qui circulent à l'intérieur du ministère, ça pourrait sortir ensuite dans les journaux, etc. C'est pas possible. Dans tous les domaines, il existe un prodigieux gaspillage, essentiellement parce que les travailleurs ne contrôlant pas la production n'ont aucun intérêt à l'organiser de façon rationnelle et ne poussent pas cette organisation rationnelle, et que la rationalisation capitaliste pour le plus grand profit se heurte à cette contradiction qu'en même temps le capitalisme, il faut qu'il produise plus et en même temps il produit trop. En même temps, il y a trop de marchandises, trop de travailleurs, trop de jeunes, trop d'apprentis, trop d'étudiants. La logique de cette situation, ce sont les chambres à gaz d'Hitler pour éliminer les forces productives en trop, c'est-à-dire les hommes. C'est la logique même, et naturellement les bombardements massifs, Hiroshima ou les bombardements classiques en Allemagne, de Dresde par exemple, détruisant complètement la ville en une nuit, ville non défendue, où a été déversée en une seule nuit une puissance explosive bien supérieure à celle de la bombe d'Hiroshima, soit dit entre parenthèses. Ça, c'est la logique d'une situation dans laquelle les forces productives ont atteint un tel développement qu'il y a trop de tout, trop d'hommes, trop d'étudiants, trop de etc., etc., trop de produits, trop de blé, trop de nourriture, pendant qu'on crève de faim ailleurs, bien sûr, trop de métaux et trop d'acier, la sidérurgie mondiale est en crise, pendant que beaucoup de gens n'ont pas de logement convenable et que la construction avec l'acier est une technique d'avenir qui n'est pas développée comme elle pourrait l'être par le capitalisme. Enfin, s'il fallait faire la liste de tout cela, je ferais la description complète de cette société. Rassurez-vous, je ne vais pas la faire maintenant. Les forces productives ont cessé de croître. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien et que la science et la technique ne progressent pas. Nous savons parfaitement qu'elles ont progressé plus vite à notre époque et qu'elles continuent maintenant, malgré les freins énormes qui sont apportés à la recherche fondamentale, c'est-à-dire à la recherche qui nourrit tout le reste. Pour employer notre jargon actuel, j'ai prononcé le mot sacré « nourrit », n'est-ce pas, qui nourrit, donc la recherche fondamentale qui nourrit tout le reste de la recherche. Eh bien, nous savons que malgré cela, la science continue à progresser de telle façon qu'on a pu dire que sur 10 savants, 10 scientifiques qui ont vécu dans toutes les époques de l'humanité, 9 sont vivants en ce moment. Mais ce progrès même n'est plus mis au service, même pour le profit des capitalistes, au 19e siècle. La science était mise, les progrès de la science et de la technique étaient mis, même pour le profit des capitalistes d'abord, au service du développement de la culture et de la civilisation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est frappant. Le 19e siècle a construit tous les grands réseaux de chemin de fer européens. Et c'était vraiment la civilisation qui avançait avec les chemins de fer. La première internationale n'a pu se constituer que parce qu'il y avait le chemin de fer. Sinon, elle n'aurait pas pu rassembler ses congrès, elle n'aurait pas pu rassembler les représentants anglais, suisses, allemands, français et quelques autres à Londres, sur le continent, à Bâle ou à Genève, pour une semaine de congrès annuel de la première internationale. S'il n'y avait pas eu le chemin de fer, c'est impossible. Et avec le chemin de fer, c'était le transport pour les masses. Ce n'était pas le transport pour les bourgeois. Il y avait la première classe, bien sûr, et les trains de luxe, mais non, c'est pas vrai. Par contre, aujourd'hui, les problèmes incomparablement plus simples ne peuvent pas être résolus. Les chemins de fer sont partout en décadence, alors qu'il reste le mode de transport le plus capable actuellement de satisfaire les besoins des masses. L'avion, c'est pas ça du tout. Par contre, la technique existe pour fabriquer des aérotrains qui circuleraient à 800 et peut-être même à 1000 km/h sur des milliers de kilomètres, transportant des centaines de milliers de gens dans la journée. L'aérotrain Lisbonne-Vladivostok, c'est une chose qu'on pourrait construire, qui du point de vue de la technique représenterait un effort moins grand que la construction du chemin de fer des tunnels alpins, dont le dernier a été construit vers 1910, le Saint-Plomb, bon, je ne me rappelle plus. Mais c'était gigantesque ce qu'ils ont fait à cette époque. Et regardez un peu ces chemins de fer qu'ils ont construits partout, y compris des chemins de fer d'intérêt locaux, avec des travaux d'art extraordinaires. Allez voir les chemins de fer de l'Ardèche, les chemins de fer des Alpes-Maritimes, c'est extraordinaire. Actuellement, ça ne sert plus, parce que dans le cadre du capitalisme, ça ne rapporte pas. Ils ont fermé le chemin de fer en Corse alors qu'il n'y a rien à la place. Les cars ne remplacent absolument pas les chemins de fer, c'est pas vrai. Par contre, la technique existe qui pourrait donner des transports. L'avion n'est pas le transport de masse pour les travailleurs non plus, c'est pas vrai. Et ils ne peuvent pas abaisser les prix à ce point, bien qu'il existe des contradictions telles que certaines villes envisagent de mettre les transports en commun gratuits parce que ça leur reviendra moins cher. Mais il s'agit d'une régie municipale, c'est-à-dire d'un service public qui n'est pas fait pour être rentable, qui ne rapporte pas de profit à la ville. Il ne s'agit pas d'une entreprise privée. Entreprise privée, comme si vous voulez qu'elle fasse avec gratuit. L'entreprise privée, c'est le profit qui compte, c'est le profit qu'on réalise, c'est le paiement comptant ou à crédit, mais c'est le paiement. Donc, aujourd'hui, malgré une technique pour qui ce que j'évoquais, je ne sais pas si on ferait un aérotrain ou une des dizaines d'autres solutions qui sont possibles, d'ailleurs, parce qu'on en fabrique tous les jours, on fabrique La société Matra s'est reconvertie et joue avec un système de transport urbain comportant des wagons qui se détachent les uns des autres sans qui que ce soit, qui sont programmés tous à l'avance et qui vous les posent à telle station ou à telle autre où vous voulez aller, sans que qui que ce soit contrôle, sauf l'ordinateur central où on a programmé les voyages, et tel wagon va à la porte d'Orléans, tel autre ailleurs, les aiguillages s'ouvrent et se ferment, et ainsi de suite. Ça marcherait parfaitement. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire ou autre chose. Des petits véhicules avec des rails étroits, etc. On peut faire des milliers de choses. Or, aucune société, aucun État capitaliste, d'ailleurs les États bureaucratiques non plus, il faut leur rendre cette justice, ne sont capables de poser, de poser le problème des transports urbains d'une manière sensée. Mais il y a plus. C'est l'autre jour que je disais ça, mais c'est vraiment frappant, le fait que la plus grande ville capitaliste de la plus riche puissance capitaliste du monde soit en train de devenir un immense amas de déchets qu'elle est incapable d'évacuer, la plus sale du monde, New York, avec son métro qui est devenu une terreur pour les gens qui l'empruntent sur des dizaines de kilomètres avec tout cela. Et qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'issue, le budget de la ville est en déficit chaque année un peu plus, elle est endettée de telle sorte que si elle voulait même rembourser, ça durerait environ 2 siècles, etc. Aucune possibilité. Dans le cadre du capitalisme, c'est exclu. Il est clair que la classe ouvrière, le gouvernement ouvrier n'aurait pas beaucoup de peine à régler les problèmes de genre. Un service public, c'est un service public, il doit marcher, point final, ça coûte ce que ça coûte, bon, ça peut faire. Qu'est-ce que ça peut faire? Nous sommes riches. Les forces productives ne demandent qu'à jaillir de toutes parts et à créer pour les hommes. Il suffit de les employer non plus à la bombe thermonucléaire, mais au développement de l'énergie. Et si l'on parle même de la pollution et des prophètes de l'anti-pollution, qui se posent de plus en plus, ce qui est dangereux, c'est ces gens comme le groupe de Grothendieck, c'est non pas qu'ils dénoncent ceci comme des maux particuliers d'un mal général qu'est le capitalisme, c'est qu'ils expliquent de plus en plus, la question est de savoir si c'est si la science, si c'est l'emploi capitaliste de la science qui est en cause, ou bien si c'est la science elle-même. Et alors naturellement, comme ils n'ont pas une pensée dialectique, comme ils ignorent superbement tout mot qu'a écrit Marx, parce que ce sera en dessous de leur dignité à ces scientifiques de s'informer sérieusement de ce dont ils parlent. Il est remarquable qu'un scientifique, dès qu'il parle de politique, oublie toute méthode scientifique et tout scrupule, il n'y a plus besoin de se renseigner, de savoir quand on parle, ça fait rien, on est génial, on a des idées et on les développe en fonction du fonctionnement interne de son libre arbitre mental. Eh bien, avec une superbe ignorance, il tire argument du fait qu'effectivement, la science n'est pas un phénomène en soi existant dans le ciel pendant que l'humanité vit sur la terre. C'est la science de l'humanité, donc le capitaliste l'a mis à son service dans le cadre de ses capitalistes. Comment serait-il autrement? Il a bien mis tout le reste à son service. Et naturellement, de ce fait, la recherche scientifique est orientée de manière déterminée, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas avant tout à guérir le cancer, mais avant tout à fabriquer des moyens de destruction plus puissants. Mais quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a rien dit du tout. On pourrait dire aussi bien que l'humanité tout entière est condamnée, puisqu'elle est esclave du capitalisme, et que finalement tout ce qui se fait de mal dans cette société, ce sont des hommes qui le font, c'est sûr. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Les agents de Satan, quelque part. C'est à moins d'oublier cette conception démonologique de la société, il est clair que tout ce qui se fait, c'est les hommes qui le font. Et si vous voulez condamner, si vous voulez dire c'est la faute des hommes, autrement dit, il faut réformer moralement l'homme avant toute autre chose, vous retomberez dans une très vieille ornière. Et vous ne comprendrez pas que l'attitude morale des hommes est le produit des conditions matérielles dans lesquelles ils sont et non l'inverse, alors que chacun de nous peut constater à quel point il est frappant que le même individu, le même, dans des conditions déterminées, peut se conduire comme le dernier des lâches ou peut devenir un héros. Le même. C'est pas du tout parce qu'il l'était par nature, c'est simplement que les conditions existent dans un cas ou dans l'autre. Donc tout le monde a vu ou verra cela. Donc, ils nous disent, c'est la science qui est coupable. Oubliant surtout cette réalité la plus fondamentale, c'est que la seule chance qu'ait l'humanité d'échapper effectivement à l'empoisonnement de l'environnement naturel, même si je ne suis pas prêt à accepter toutes les choses terrifiques qu'on nous déclare, parce que j'ai déjà vu il y a 20 ans annoncer que ça ne pourrait pas durer plus de 20 ans, c'est moi un peu sceptique sur le reste. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le seul moyen, mais c'est dans le développement extrême de la science et dans sa mise au service de l'humanité. Et nous ne pourrons être sauvés des méfaits de la pollution que par un développement très supérieur de la science, qui, elle et elle seule, est capable de répondre à des questions du genre « Peut-on se passer les insecticides ?» sans mourir de faim,
Ou d'autre part, si on emploie les insecticides, peut-on ne pas s'empoisonner? C'est une question que la science, non seulement d'ailleurs, peut résoudre, mais en fait a déjà largement résolu, sauf que le capitalisme ne peut pas employer ses conclusions. Et plus généralement encore, les problèmes que pose l'environnement ne pourront être résolus que dans le cadre d'une planification globale, c'est le cas de le dire, de toute la production à l'échelle de la planète, parce que précisément, la pollution n'a rien de national. Si vous souillez l'atmosphère en France, y compris les Japonais en subiront les conséquences, parce que tous les problèmes sont interdépendants, c'est ça qu'explique cette nouvelle branche scientifique qu'est l'écologie, et que ceux qui espèrent faire face en attaquant précisément l'écologie, parce qu'actuellement elle se met au service des capitalistes et justifie leurs mesures destructives, ne comprennent pas que c'est seulement en mettant l'écologie au service de l'humanité qu'on pourra s'en sortir, sinon il n'y a aucune chance. Ça n'est pas en renonçant aux machines et par conséquent en condamnant à mort les 99, mais au moins les 9 dixièmes de l'humanité actuelle que se trouve la solution. Le socialisme est possible parce que le développement de la technique a atteint un tel stade qu'il est possible, dans le cadre d'une planification mondiale, dans le cadre de la prise en charge par l'humanité de son propre développement de manière contrôlée, maîtrisée et consciente à l'échelle mondiale, de satisfaire tous les besoins sans aucune limite. Dans une telle société régnera le principe « chacun donne à la société selon ses capacités et chacun reçoit selon ses besoins » sans aucune limitation autre que l'habitude qui veut qu'on ne se saoule pas tous les jours parce que finalement ça ne serait pas très agréable. Parfois nous pourrions dire des choses de genre. Trotsky parle de ça dans des textes qu'on a reproduits dans le bulletin qui est en vente ici. J'y ai mis une série d'extraits où Marx et Trotsky, je n'ai pas le temps d'en chercher d'autres, exposent quels sont les objectifs ultimes du socialisme, de la société fondée sur l'abondance, la satisfaction sans limitation des besoins. Dans une telle société n'existera plus aucune espèce de différence de classe, ni même de différence sociale. Il existera seulement des individus différents, et beaucoup plus différents les uns des autres que nous ne pouvons en connaître aujourd'hui, où la société capitaliste modèle, tend à modeler tous les individus selon un nombre de moules extrêmement réduit. Dans cette société aura disparu toute division du travail permanente. Chacun pourra accéder au niveau le plus élevé de la culture. Comme le disait Trotsky, on croisera des Goethe et des Einstein à tous les coins de rue. Et c'est vrai, c'est possible. Nous savons aujourd'hui que Goethe ou Einstein ne sont pas le produit d'un génie qu'ils avaient dans l'œuf, mais beaucoup plus le produit de circonstances heureuses et favorables de leur milieu et de leur éducation. On peut admettre qu'ils étaient quand même exceptionnels génétiquement, ça n'est pas démontré. Le contraire n'est pas démontré non plus. Ce qui est certain par contre, c'est que le milieu et l'éducation entravent le développement vers le niveau le plus élevé qu'ils auraient pu atteindre de l'immense majorité des êtres humains aujourd'hui. Ça, c'est certain. Une telle société est possible parce que la base matérielle est possible et parce que lorsqu'il y a l'abondance pour tous, il n'y a aucune raison que les hommes se battent entre eux pour en avoir davantage. Lorsque s'ils veulent manger, ils n'ont qu'à aller chercher à manger au magasin de la société. Lorsqu'ils veulent une automobile, ils iront y chercher, et ainsi de suite, sans aucune limitation, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y en ait, étant donné qu'il y en a largement assez pour tout le monde, plus qu'on en consommera, parce que la planification vise simplement à maintenir la production en harmonie avec les besoins qu'on peut prévoir. Dans une telle société, l'activité, le travail productif sera devenu quelques heures par semaine ou moins encore, parce que l'automatisation aura atteint son degré suprême, et l'essentiel dans la vie humaine sera l'activité libre, non productrice, créatrice, dont nous pouvons simplement dire tout ce qu'elle ne sera pas, et pas grand-chose de ce qu'elle sera, parce que ça nous dépasse, parce que croire qu'on pourrait imaginer ce que sera cette société, c'est oublier que nous sommes nous aussi le produit des conditions matérielles d'existence dans lesquelles nous sommes et que l'humanité, qu'on ne peut pas sauter par-dessus sa propre époque. Elle est nécessaire d'autre part, parce que si elle ne se réalise pas, la bourgeoisie va entraîner l'humanité dans la barbarie qu'elle est en train de le faire. Si ce n'est pas les chambres à gaz de Hitler, alors c'est le quart des familles américaines qui sont des pauvres entretenus par l'État, à un niveau où ils ne meurent pas de faim, mais à un niveau où ils n'y participent en aucune façon
à la civilisation moderne et à sa culture et à son activité, n'ont aucune possibilité d'y participer, ni eux, ni encore moins leurs enfants qui ne recevront pas d'éducation suffisante, etc. La seule différence d'ailleurs étant que le capitalisme américain, du fait des puissantes organisations de masse des travailleurs, des syndicats, ne peut pas envisager les chambres à gaz au stade actuel. Il faudrait d'abord qu'ils passent sur le corps des syndicats et ça n'est pas du tout dans ses possibilités dans la prochaine période. Bien au contraire, c'est plutôt ces syndicats, en dépit de leur direction bureaucratique traître, qui, comme on l'a vu au moment des mesures prises par Nixon le 15 août, ont été le plus puissant obstacle qu'ait rencontré Nixon jusqu'à maintenant, en n'acceptant pas le blocage des salaires, et en concluant bien sûr un compromis avec lui, c'est pas des révolutionnaires, hein, mais en lui imposant une série de reculs favorables aux travailleurs. Dans ces conditions, y compris les couches les plus exploitées du prolétariat américain, noirs, pauvres, blancs, fermiers sans terre et ainsi de suite, sont protégés là aussi. Il faut ajouter d'ailleurs qu'il se crée maintenant aux États-Unis une nouvelle espèce de pauvre qui a une importance majeure. Il y a des milliers et des dizaines de milliers de scientifiques en chômage définitif qui ne seront plus jamais réembauchés nulle part, ça c'est une certitude, en particulier dans la branche de l'aérospatiale. Après l'achèvement du projet Apollo, la NASA est pratiquement fermée pour des années, elle ne fonctionne plus qu'en veilleuse, et d'innombrables milliers de techniciens qui s'étaient formés à travailler pour ces techniques sont en chômage définitif. Dans un hebdomadaire économique, Business Week américain, je lisais récemment, qu'est-ce que c'est le chômage aujourd'hui? Parce que ce qui les fait prendre d'angoisse, c'est que dans les prévisions des économistes, l'économie américaine va se redresser l'année prochaine et reprendre la progression du produit national, mais que même dans ce cas, le chômage ne sera pas réduit et continuera à augmenter, à moins qu'on augmente massivement l'inflation. Or, ils augmentent massivement l'inflation pour développer la production, mais il faudrait augmenter encore 5 fois plus, comme ils le calculent eux-mêmes, certains rapports qu'ils ont établis. Alors, ils sont effrayés de ça et ils ont donné une description du chômage. Ils ont trouvé un noir qui était garçon d'ascenseur, maintenant les ascenseurs ça marche tout seul, tout un tas de gens comme ça, puis ils ont trouvé un ingénieur de l'aérospatiale qui gagnait 10 000 dollars par an, ce qui est quand même pas mal, enfin, ça ne se situe pas à l'échelon inférieur de la classe ouvrière. 10 000 dollars par an, il avait acheté une maison, etc. Et depuis 25 ans, il a été interviewé, il a expliqué, je croyais que lorsqu'on avait les capacités techniques nécessaires et qu'on était disposé à travailler dur, on était sûr de trouver du travail aux États-Unis, je me trompais. Depuis 25 ans, il changeait de travail tous les 3 ou 4 ans sans faire de difficultés. Une boîte fermée, il partait à l'autre bout des États-Unis vendant sa maison en achetant une autre, selon un processus qui est très courant aux États-Unis. En achetant une autre à crédit avec le système des hypothèques qui les écrase et qui n'ont plus de salaire. Enfin, de toute façon, il faisait ça tous les 3 ou 4 ans, il se déplaçait, il était bien bon technicien, son salaire augmentait, etc. La dernière boîte a fermé il y a 3 mois, il n'a pas de travail, il gagne sa vie en vit dans des poubelles, on gagne le métier de ce genre, je ne me rappelle plus quoi, en bricolant je ne sais où, sa femme de la même façon. Et il est parfaitement clair que s'il n'avait pas des enfants qui, heureusement pour lui, ne travaillent pas dans l'aérospatiale, ni dans aucune branche technique et scientifique, et il serait voué non seulement au chômage, mais à devenir clochard dans l'espace d'un an ou deux, ou à vivre uniquement des allocations de chômage, du welfare state, de la bienfaisance, et ainsi de suite. La naissance de gens de ce genre aux États-Unis, je dis ça en passant, mais c'est un aspect de la destruction des forces productives. Cet homme, c'est une force productive, une force créatrice, qui peut créer des biens de nature à satisfaire les besoins d'innombrables malheureux. Si sa technique, ses connaissances techniques étaient mises au service de l'humanité dans son ensemble, il pourrait faire 100 fois plus et il ne demanderait pas mieux, lui. Et on le détruit. Il est vraiment engagé dans un processus de destruction morale, physique, etc. Pour l'avenir de la révolution américaine, le fait que des milliers de gens de cette espèce soient amenés à dire « je croyais que, quand on était prêt à travailler dur et qu'on avait l'éducation qu'il faut, on trouverait toujours du travail, et je sais maintenant que c'est pas vrai », ça peut avoir une importance absolument majeure, parce que c'est ça l'aristocratie ouvrière aux États-Unis, c'est-à-dire la base même de la bureaucratie syndicale et de sa collaboration avec avec la bourgeoisie. Si ces gens commencent à dire c'était pas vrai, il peut se passer beaucoup de choses qui accéléreront la maturation révolutionnaire aux États-Unis aussi. Le socialisme est nécessaire,
parce que sinon l'humanité va être entraînée à sa perte avec certitude, que ce soit sous la forme de l'empoisonnement de l'environnement, de la guerre thermonucléaire, des deux à la fois, d'autres choses encore. La marche au chaos est dès maintenant une réalité, c'est en perspective d'un lointain avenir. La barbarie, elle marche, elle dit marche le chaos, il est en marche au Bengale, il est en marche dans le monde entier. La décomposition de la société se poursuit. La croissance de la drogue en est un autre aspect, si vous voulez. Bien que ce soit un aspect spécifiquement capitaliste, parce que si les jeunes se droguent à l'héroïne aujourd'hui, c'est parce que ça rapporte à certains grands trusts. À la mafia, laquelle est une entreprise parfaitement capitaliste, parfaitement organisée et liée étroitement au sommet de l'Église catholique, comme on a pu le voir lorsque l'hebdomadaire du Vatican a publié un article défendant les chefs de la mafia contre les calomnies dont ils étaient l'objet, et expliquant qu'on les calomniait exactement comme on calomnie les hommes d'Église. Cet article a été repris par Le Monde, qui était un peu gêné, je l'ai conservé, j'aurai la date si vous voulez, je n'en croyais pas moi-même mes yeux, mais si Le Monde le dit, il faut bien le croire. En tout cas, quand il dit du mal de l'Église, on peut être sûr que c'est vrai. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent. Bon, toute cette décomposition de la société, notre époque n'est pas l'époque de l'avenir socialiste ou de l'avenir barbare, elle est l'époque où les forces qui luttent pour le socialisme et les forces qui mènent au chaos et à la barbarie se développent simultanément d'un même mouvement. C'est notre époque, c'est l'époque de l'imminence de la révolution ou de la contre-révolution. Le socialisme est nécessaire parce que sinon il est possible, parce que les forces productives ont atteint le développement convenable, il est nécessaire parce que sinon l'humanité est condamnée. Je m'excuse d'avoir été si long, c'est toujours la même chose. Vous ferez la critique et je vous la demande. Vous me direz ce que j'ai dit en trop. Il est vrai que j'étais très fatigué. Quand je suis très fatigué, ça m'entraîne quelquefois à être plus lent et à faire un certain nombre de détours. D'un autre côté, les détours aident à la compréhension, parce que si on soutient tout le temps l'exposé, ça risque d'être un peu dur. La chose qu'on peut discuter, parce que c'est nouveau à cette école, je ne l'avais pas fait la fois d'avant, c'est les développements que j'ai donnés sur la dialectique. Bon, alors ça, on peut penser que c'est utile. Ouais, mais tu vois, c'est sûrement utile. Tu vois, la tête, seulement il y a d'autres choses qui sont utiles, et puis le résultat, c'est que ça a duré un temps que je n'ose même pas imaginer, et je ne vais plus regarder ma montre, parce que je rougirai si je la regarde.